L'équipe de Geek Bécois tient à s'excuser du long retard qui est venu hanter la production et la publication de cet épisode du podcast mensuel. Il est important de mentionner que seule une situation importante aurait pu affecter ainsi le podcast. L'émission reprend désormais du service et c'est pour de bon. Maintenant, attachez vos tuques. Non. Enlevez les vos tuques, là on est rendu au mois de mai, calvaire. Fait chaud. Cet épisode du podcast Geek Bécois est rendu possible grâce à la participation de Future Shock. Dans cet épisode de Geek Bécois, le podcast...
Le nouveau iPad qui n'est pas le 3.
Non, mais c'est...
C'est le nouveau iPad.
Nouveau iPad.
Nouveau.
Comme d'habitude, les jeux à venir dans le mois de mars.
Je me suis acheté la PS Vita.
Google a procédé la semaine passée au relancement de beaucoup de ses marques, à une réunification carrément de plusieurs marques assez disparates.
Je vais te parler aujourd'hui du DJ2Go de Newmark.
Comment vivre sans le câble?
Comment se débarrasser des 40$ que vous payez par mois?
Et plus. Bonjour et bienvenue au podcast mensuel de Geek Bécois. Aujourd'hui, je suis avec une bonne partie de l'équipe de Geek Bécois. Je vous les présente à l'instant. Renaud.
Salut tout le monde.
Alex.
Bonjour.
Steve.
Bonjour.
Jean-François.
Ciao.
Laurent.
Et bonjour.
Et moi-même. Et ensemble, je crois bien qu'on va vous livrer tout un show parce qu'on a des sujets chauds.
Oh my God!
Alors, souhaitons-nous bonne émission et je peux qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au podcast. Et puis, aujourd'hui, nous sommes présentement chez nous et la raison est simple. Comme vous saviez, j'étais enceinte et j'ai accouché et toute l'équipe ont voulu revenir ici à la maison, comme au premier podcast qu'on avait fait, je pense,
en juin.
Dernier. Donc, on fait ça homemade, comme on dit. Et on va commencer avec la chronique qu'on fait toujours en temps normal. Et
Chronique critique.
Critique ma chronique.
J'ai mal au cœur. Alors, allons-y avec la chronique de Laura. Command code verified.
Program is ready. System online.
Sexualité techno avec Laurent Chouinard.
Bonjour Laurent, comment ça va?
Bonjour, ça va très bien toi.
Ça va très bien, merci. Et tu as quelques nouvelles récentes à nous parler sur la technologie en fait?
Oui, ben, je pense que c'est. Comme c'est le cas à chaque fois, on peut malheureusement pas passer à côté du fait que Apple a fait un événement médiatique pour présenter ses nouveaux produits, encore une fois. Et il y a du bon, il y a du moins bon. Ça dépend à qui on demande, mais je ne sais pas vous autres, le nouveau iPad, qui n'est pas le 3.
Non, mais c'est...
C'est le nouveau iPad.
Nouveau iPad.
Le nouveau. Je ne sais pas pourquoi ils ont décidé de changer complètement le style de nom qu'ils utilisaient des dernières années, des dernières séries.
Les suites, oui, c'est ça.
C'est toujours un, deux, trois. Donc, celui-ci, c'est le nouveau iPad, qui a pas énormément de grands changements, à part, évidemment, l'écran. On ne peut pas passer à côté. Ça a été une des grandes critiques, quand le 2 était sorti, tout le monde voulait un écran à haute résolution, un Retina Display. Puis il n'y en a pas eu, probablement parce que la technologie, à ce moment-là, n'était pas tout à fait prête. Pour les mêmes raisons qu'il n'y avait pas eu de chip LTE pour la communication cellulaire 4G dans le iPad 2. Et pourquoi il n'y en a pas eu aussi dans les iPhones de série 4, c'était ce que Steve Jobs, à l'époque, avait dit. Les puces consomment trop d'énergie, elles sont trop grosses, trop volumineuses à mettre dans les appareils, donc il n'y en avait pas eu. Visiblement, maintenant, la technologie est assez fiable et de bonne qualité pour justifier le mettre dans cet appareil-là. Mais on voit qu'il y a quand même une grande consommation encore d'énergie parce qu'ils ont rendu l'appareil plus épais pour y mettre une beaucoup plus grosse pile qui a énormément plus de capacité qu'avant. Et ça donne la même durée de pile. La durée de vie d'autour de 10 heures encore, c'est la même chose.
Puis le poids, c'est niaiseux, mais on a testé tantôt le iPad d'Alexandra.
Moi, c'est surprise.
Oui, c'est ça, avec le 1 de voir la pesanteur, parce que j'avais jamais pesé en fait un iPad. Mm-hmm. Puis est-ce que c'est semblable? Est-ce qu'on le sait, la pesanteur?
Je ne le sais pas.
Non. Mais le 2, quand on regarde le 2, il est nettement moins lourd déjà. Ouais.
Parce que si on revient, si on grossit l'épaisseur, ben, ça va peut-être jouer sur le poids.
Ça devrait être une technologie de pile un peu supérieure parce qu'il y a apparemment il y a des gens qui ont calculé que la capacité par volume est plus grande qu'avant.
Okay.
Mais en plus, le volume aussi est plus grand, donc la capacité devient beaucoup plus grande. Est-ce que cette nouvelle technologie est plus lourde que l'ancienne? Ouais, je ne sais pas, je n'ai pas comparé les chiffres, mais je m'attendrais à peu près à la même chose.
Semblable.
Okay. Ouais, contrairement à d'autres qui ont des appareils beaucoup plus légers, là, comme les tablettes de livres, comme Sony, là, que ça pèse quelques centaines de grammes.
Rien, c'est ça.
Mais à part ce changement-là, il n'y a pas grand-chose d'autre vraiment.
Mais il est passé en 1080 aussi?
Oui, ben, avec le Retina Display, évidemment, l'appareil permet d'afficher en 1080. Mm. Donc, la caméra à l'arrière a aussi été rehaussée à 5 mégapixels, qui permet aussi de capturer en 1080. Sinon, il y a aussi le Apple TV, le nouveau Apple TV, ou le nouveau Apple TV 2, enfin, on ne sait plus comment les appeler, qui suit dans la même lignée une augmentation de sa capacité d'affichage à 1080p. Mm-hmm. Donc, on peut enfin avoir du Full HD dans notre télé avec l'Apple TV, ce qui était un des seuls appareils qui était encore comme ça. La plupart des autres avaient maintenant cette capacité-là d'affichage. Donc, une belle amélioration. Sinon, à part ça, il y a une nouvelle interface qui est plus conviviale, plus intéressante. Mais rien de vraiment super important. Là.
Mais c'est drôle qu'il ait pris quand même le terme « nouveau » pour tout ça, qui en fait est absolument rien. Ils ont comme gaspillé leur nom. T'sais, ils auraient pu, mettons, sortir le iPad 3, le iPad 4. Puis après ça, ils n'ont plus rien. Puis là, sortir quelque chose de big, puis de faire « OK, là, c'est le nouveau. »
Le nouveau, oui. Vraiment
utiliser,
réinventer.
Oui, c'est ça. Tu sais, qu'on le sente vraiment. Mais là, c'est juste nouveau, mais c'est pas vrai.
Oui, c'est vrai. Peu importe ce que les prochains appareils vont faire de différent, ils pourront pas être le nouveau X.
C'est ça.
Ça va être le nouveau iPad 2, peut-être.
C'est niaiseux. Là.
Je trouve ça drôle comme stratégie.
Ouais.
J'aimais bien, moi, les numéros, c'était simple, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, des fois, une petite variation, 4S, 3G.
Tu sais, j'ai pas suivi la conférence en direct, je l'ai suivi un peu sur Twitter. Puis, ce qui donnait l'impression, malgré ce que je suivais sur Twitter, c'est qu'on dirait que ne savait pas comment le nommer jusqu'à la dernière minute.
Mm. Ah oui? Mm.
C'est ça que j'ai ressenti, moi.
Comme fait, c'est
un
new one!
Ben, c'est nouveau, là, finalement.
Ouais. Ah, ça me tente pas de le nommer 3. Ah, OK. iPad.
Ouais.
Le Apple TV, est-ce qu'il garde le même prix?
Oui. Il est à 99$, donc c'est excellent. C'est quand même encore un bon prix. Là. C'est vraiment pas cher pour
mettre
dans
le salon.
C'est
moins cher qu'un Boxy, tout ça. Le Boxy, c'est plus cher.
La Boxy est pas mal plus cher. 249, je pense, quand j'avais acheté la mienne. Peut-être que ça a changé un petit peu, mais je pense que c'est encore autour de ça.
D'un autre côté, dans ce cas-là, moi, je blâme le marketing de D-Link, mais bon.
Non seulement le marketing de D-Link, mais je peux te dire que le support aussi, c'est pas super parce que j'ai eu des difficultés avec un de mes appareils, puis ça a été vraiment l'enfer avec le support. Par contre, le suivant que j'ai eu, à date, ça va bien, fait que bon, je me croise les doigts.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai, je suis d'accord que D-Link semble pas avoir bien suivi cet appareil-là entièrement. On dirait qu'il y a comme pelleté le problème chez Boxy, puis Boxy pelleté le problème chez D-Link, enfin.
C'est comme si c'était, désolé de l'anglicisme, un afterthought.
Ouais, genre, finalement, c'était pas ce qu'on pensait, fait que. C'est un peu comme il y en a qui ont fait la Google TV, puis après ça...
La Logitech revue était un gros fait de la part de Logitech. Ça, c'était moins un effort marketing mal fait, et plus Logitech qui ont juste vraiment surestimé la chose.
Mm. Ouais, probablement que c'est un cas de dirigeant qui pensait faire des millions, puis finalement, c'était modéré. Donc...
Un coup d'argent.
Il aurait dû faire comme l'Apple TV, le mettre à 99$, ça l'aurait vendu comme des petits pains chauds.
Ouais, faire comme des playbooks, puis les donner dans le marché aux puces.
Ouais, c'est ça.
Sinon, il y a aussi le fait que ce nouveau iPad Ish 3 est déjà en rupture de stock. On a annoncé. C'est pas une surprise, mais bon. On s'attend à plusieurs semaines de.
Apple, sortie de produit, rupture de stock. C'est une équation simple.
Et voilà, exactement. C'est comme ligne d'attente puis nouveau téléphone.
Ça ressemble à Nintendo aussi.
Oui.
Oh, mais sûrement qu'il va avoir une rupture de stock, là, on devrait recommencer à en avoir. Avant Noël, paf, autre rupture de stock. Ouais. Parce que là,
probablement.
Parce que ce qui est rare et cher, tu sais, ça justifie.
Ça
justifie leur prix. Et,
mais là, est-ce que
ça,
c'est une rareté
demande.
C'est ça.
Là, est-ce que c'est une rareté artificielle ou pas?
Ça m'étonnerait parce que souvent, ils en vendent autant qu'ils sont capables. c'est vraiment les téléphones, les tablettes, c'est autant qu'ils peuvent. Fait que, s'ils n'ont pas pu en vendre, c'est probablement parce qu'ils n'en ont pas. Mais enfin.
Ouais, c'est ça.
Puis il y a aussi le iOS 5.1 qui est annoncé, qui est à peu près aucune amélioration outre la correction du très gros bug.
Ça n'a pas changé grand-chose. Hein?
Le très gros bug de batterie qui est enfin réglé,
ouais.
qui a accablé beaucoup de personnes avec surtout le 4S, moins le 4, mais qui a été quand même très dérangeant. Donc bon, apparemment, c'est enfin réglé. Puis Siri pour la langue japonaise, maintenant disponible.
Ah, c'est vrai.
Tout le lecteur.
Siri en français aussi, je pense que j'ai vu ça.
Pardon?
Siri, c'est pas en français ou c'est juste la reconnaissance vocale qui est en français?
Ça fonctionne en français depuis le début en une espèce de bêta. C'était pas tout à fait au point. Là, on peut probablement s'attendre à un rehaussement de qualité maintenant. Okay. Parce que j'en ai qui ont fait le test et c'était plutôt moyen les résultats que ça donnait.
En français, avec un bon français, comme Alex. Moi, il me connaîtrait pas.
Même quand
tu Siri, ou un calendrier demain dans 3 heures.
C'est ça.
Tu vois, moi, le problème de batterie, je l'ai vécu avec iOS 5 sur mon 3GS.
Ah oui?
C'est à un point que j'ai acheté le 4S, puis je te dirais que j'ai jamais eu de problème de batterie.
iOS 5 sur un 3GS, c'est courageux.
Mais oui, je l'ai
fait. Moi, je l'ai, ça marche très bien.
Ouais, c'est ça.
Courageux aussi.
J'aurais peut-être dû attendre avant d'acheter.
Non, c'est pas ça, j'ai beaucoup.
Mais ça fait des très belles photos de voyage avec mon 4S.
Oui, c'est vrai, elles sont très belles.
Il marche parfaitement.
À part Apple, que cette semaine, on a eu aussi une annonce intéressante de Microsoft qui sort un kit de développement gratuit pour faire de la robotique ou du contrôle de robotique avec la Kinect.
Ah ouais?
Il y en a sûrement d'entre vous qui ont vu le clip qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière, je crois.
La Game Heavy Rain?
Non, je parle de le
Bloops.
No. C'était le shopping cart connecté avec une Kinect qui suit la personne. Donc le présentateur, il se promène dans une épicerie et le panier le suit parce que la Kinect le voit. Donc elle peut contrôler les roues et motoriser la direction du panier pour le suivre à mesure qu'il fait son épicerie.
Sans autre repère que le gars qui est scanné.
Oui, exact. Puis à mesure qu'il met ses produits dans son panier, la caméra de la Kinect reconnaît le produit et l'enlève de sa liste. Puis ensuite, elle lui recommande où aller ou des recettes à faire avec ce qu'il a choisi. Ou, dans certains cas, lui recommande de choisir une alternative parce que celle-ci est, mettons, pas super bonne pour la santé ou il y en a une autre en promotion. Oui, oui, oui.
C'est le fun, mais ça ne me tente pas d'amener ma Xbox à l'épicerie.
Tu veux des chips.
Eux autres, avec probablement 2 ordinateurs et un réseau. L'idée, c'est que un panier d'épicerie intelligent, parce que c'est une démonstration de l'intelligence du panier d'épicerie avec l'usage d'une Kinect, qui est capable donc de voir, reconnaître et de faire du déplacement. Ce kit-là est maintenant disponible en développement, donc tout le monde peut télécharger le kit Windows pour Kinect, le SDK, et le SDK de contrôle robotique pour la Kinect, et s'amuser à faire des trucs comme
non,
ça.
Non,
est-ce que ça compte les calories en fonction de ce que tu mets dans ton panier?
Ben, mais je suis sûr que oui, en scannant les codes ou de quoi de même.
Ouais. Ben, en reconnaissant le produit, la taille, on peut savoir le qu'est-ce qui est... Avec une bonne base de données, évidemment.
En regardant la taille du sujet qui est
au final, la meilleure intégration de ça, ça serait le panier qui inclut ça, puis qui se lie avec le téléphone intelligent du client.
Ouais, mais ça doit être quelque chose comme ça. C'est sûr que tu as
du feedback. C'est sûr que le panier va être branché. Donc, on pourrait s'attendre à ce que le profil de la personne soit déjà connu du panier. Tu pourrais avoir, par exemple, préparé ta liste chez toi, sur ton mobile, prendre une photo de ton frigidaire. Tu sais, il y a plein de
possibilités, ça donne la chance à, dans le fond, à n'importe qui d'essayer des nouvelles techniques, des nouvelles choses en donnant la possibilité de le faire, dans le fond.
Oui, exactement. Exactement. C'est de rendre la robotique à un niveau extrêmement accessible.
Oui, c'est
parce qu'avant ce kit-là, si on voulait faire un robot qui a de l'intelligence, il fallait, en quelque part, réinventer la roue.
Réinventer
la reconnaissance d'image, la reconnaissance spatiale dans l'espace avec les scanners, puis différentes techniques. Puis évidemment, puisque chacun redéveloppe le système à partir de zéro, c'est jamais un niveau de qualité peut-être équivalent à un appareil qui a été déjà développé que pour faire ça, pour ensuite, toi, tu fais ton développement par-dessus pour une couche logicielle.
Mais ce qui existe déjà, en Europe, j'ai joué à ça pendant mes vacances dernières, là, à Carrefour. En fait, c'est ce qu'ils appellent des scanettes. Donc, avec ta carte de crédit, tu mets dans ta petite scanette. Donc, c'est une petite poignée comme ça avec un écran. Et en fonction de ce que tu achètes, tu le scannes
au fur et à mesure, tu mets dans ton chariot. Et puis ça s'affiche, ça s'accumule aussi, tu sais exactement où en est ta facture au fur et à mesure. Tu peux enlever si tu as trop dépensé ou si tu n'en veux plus, tu enlèves très facilement. Et puis après, tu enlèves ta carte de crédit, tu t'en vas.
Ah ouais!
C'est vraiment bon. Puis bon il check des paniers de temps en temps.
Bon, malheureusement, on n'a plus le temps.
Ah ouais, mais je
C'est super pratique.
C'est pratique pour ça, mais je trouve en même temps, selon le panier d'épicerie qui t'indique où aller chercher quoi sur ta liste, je trouve qu'on est, c'est quasiment rendu comme si on était des Sims, puis l'ordinateur te disait « Ok, tu manques de bouffe, ok, tu manques de vie sociale, ah ben il faudrait peut-être que tu baisses ce soir.
Hein. » On est en train d'inventer Wall-E dans notre vie.
C'est 1984.
C'est fou,
c'est fun, mais moi,
c'est pas ça. Prennent des décisions sur ma vie. Ce qui est intéressant de ce genre de concept-là, c'est qu'il peut nous aider à réduire certaines charges de travail qu'on a à faire en réduisant soit leur difficulté ou la durée.
Ouais.
Avec un panier comme ça, ça peut rendre la tâche de faire l'épicerie un peu plus rapide ou un peu plus efficace.
Puis ça peut permettre plus facilement le multitâche aussi. Tu es capable de faire probablement plus qu'une chose en même temps.
Ben, c'est exactement la vision que Google avait en se disant. Si on fait une voiture qui se conduit d'elle-même, ça veut dire que le conducteur peut faire autre chose. Pourrait être sur Internet avec son mobile.
Peut dormir au volant.
Ça déresponsabilise les gens aussi. Après, ben non, c'est pas moi, c'est la voiture.
Ouais,
c'est
bon, ça lance un autre débat.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. À quand le retour de l'épicerie en folie?
Avec qui se tient
Tétro. C'est tout ce que j'ai à dire.
Merci,
là. Bon. À quand le retour du consommateur intelligent?
Mais Laurent, est-ce que la capacité des nouveaux iPads a évolué?
Ah, ben non, hein, c'est encore la même chose. Le plus gros, 64 gigs. Donc, on se serait attendu à une augmentation.
C'est oui, parce que, comme que je pense, là, puisque là, ça peut enregistrer en 1080p, ça doit prendre beaucoup de capacité, ça. Là. Donc, déjà, que s'ils commencent à faire les films en 1080p sur le iTunes Store, ça va prendre la place, ça, là, sa tablette. Films, là.
Et de la bande passante.
Ça, et de la bande passante.
Oui, déjà que la bande passante, il va falloir faire plus attention parce que maintenant, plus grande consommation.
Ouais.
Mais en plus, avec le stockage de films ou d'épisodes télé dans l'appareil iPad, il va falloir effectivement prévoir plus.
Il me semble que j'ai déjà essayé de mettre un épisode HD de 45 minutes sur mon iPad, mon iPhone, puis c'était 3 gigs.
Ok, ça, c'était peut-être la compression.
45 minutes, 3 gigs,
non. Avec un niveau de compression respectable, c'est possible de faire mieux que ça. Mais c'est vrai quand même qu'à 1080p, évidemment, plus d'espace, donc moins de quantité d'épisodes, moins de minutes de vidéos par appareil.
Si ça venait directement de ton iTV, 3 gigs, 45 minutes, ouais, c'est fort possible. Okay. Mais il fallait le changer.
Okay.
Il faut le convertir.
Dernière nouvelle, c'est le nouveau système d'écran tactile de Microsoft. Qui a un système de reconnaissance du toucher de 1 millième de seconde de délai.
Wow.
Quand on utilise nos appareils, on remarque souvent qu'il y a un léger délai. Le système d'exploitation est souvent blâmé pour ça, mais c'est pas le seul responsable du délai entre l'action du doigt et la réaction du système d'exploitation. C'est la technologie de l'écran tactile qui a aussi jusqu'à 1 dixième
de seconde. Il y a quand même un écran à traverser aussi, hein?
Non, mais c'est que c'est le système électronique qui fait les calculs, la correction d'erreur, le traitement de toute l'information qui provient jusqu'à temps qu'il y ait une décision qui est prise. Oui, l'utilisateur a vraiment appuyé à cet endroit-là, cette information-là qui est ensuite relayée au système. Tout ce traitement-là prend traditionnellement jusqu'à un dixième de seconde.
Okay.
Ce que Microsoft a fait, c'est améliorer la qualité de tous ces niveaux de traitement-là pour se rendre à un millième de seconde.
Mais c'est énorme. Mais tu sais, énorme comme évolution,
c'est-à-dire? Oui, c'est phénoménal.
Même pas toucher l'écran, ils vont juste sentir la chaleur, ça va réagir. Est-ce que
tu le touches pas, puis il va réagir.
Est-ce que tu connais le délai actuel des machines?
C'est environ 100 millisecondes, la moyenne de temps de réponse de traitement des systèmes de reconnaissance tactile, donc 100 fois plus lent que ce que Microsoft nous propose.
Wow.
Oui, c'est ça. Cette technologie-là.
Ils arrivent avec une nouvelle tablette avec ça ou c'est juste la technologie en fait qu'ils ont améliorée?
C'est la technologie. Okay. Donc, on peut s'attendre à ce que cette technologie-là soit ensuite utilisée par d'autres manufacturiers pour mettre dans leurs appareils.
Le nouveau iPad.
Le nouveau iPad 2.
J'essayais pas l'affaire.
C'est ça. Non, moi je la fais.
Alors voilà, c'est ça le sommaire des nouvelles qui ont retenu mon attention ces derniers temps.
Mais c'est assez impressionnant, il y en a beaucoup.
Ben, beaucoup de choses, oui. On a un printemps à date assez actif.
le printemps est en fête. Merci, Laurent.
Merci. D'accord.
Voici l'info. Alors!
Est-ce que t'es con? Je t'aime tellement.
Ben, on a le clap, là.
Oui, c'est ça.
On a le clap, c'est...
Alors, on y va avec ma chronique, qui est en fait, comme d'habitude, les jeux à venir dans le mois de mars. Et je vais toucher un peu au mois d'avril.
Tu vas être touché. Attention, il est chatouilleux.
Alors, mais je vais commencer, je vais reculer un petit peu dans le temps. Le 6 mars, il y a eu Mass Effect 3 qui est sorti, que je crois que... Je sais pas s'il y en a qui ont eu la chance d'y jouer, parce que c'était plus qu'attendu.
Il y a Bruno, mais il est pas parmi nous.
Hey, Bruno, c'est vraiment... En tout cas, continue, quand même.
C'est quoi ça?
Non, mais j'ai dit j'allais parler dans le dos parce qu'il était pas là. Mais...
OK. Alors,
c'est une blague à l'intérieur.
Oui, c'est ça. C'est ça. Ensuite, il y avait MLB 12 qui est sorti et je n'y ai pas joué parce que je n'y ai pas joué. Mais j'imagine que c'est bon. Street Fighter...
Si tu veux, je t'enlève ton verre de vin.
Non, mais il y a eu aussi le 6 Street Fighter contre Tekken qui sortait, qu'on en avait parlé, que moi, je voulais essayer en tout cas. Et ça a l'air que les critiques sont bonnes du jeu. Alors, ce serait à voir. Et maintenant, on y va dans l'actuel, le 11, qui est en fait demain, sort Mario Party 9.
Et, hey, Mario va être à Montréal demain.
Je sais, on va même pas le voir, il va être au Parc La Fontaine.
On y a pensé d'y aller.
Oh, mamma mia!
Ben, je salue Luc Desormeaux qui m'a invité à y aller avec lui.
Je pensais que tu saluais
Mario. C'est parce que tu pourrais venir avec moi à la place.
Ma blonde veut pas que je me tienne sur avec toi.
mais Mario Party, Steve, entre autres, est un grand fan des Mario Party et je suis certaine qu'ils vont avoir un super bon résultat comme tous les autres Mario qui peuvent sortir à la Wii.
Tu te trompes pas avec Mario Party.
Non, c'est ça. Silent Hill, pour les fans de jeux horreur et genre, le 20 sort Silent Hill HD Collection, qui est un peu le même concept qu'il avait fait avec...
God of War, Splinter Cell...
Oui, c'est ça, ben, c'est un peu dans la même lignée, ils ressortent
Shadow
des vieux jeux.
Shadow of the Colossus, Ico, ta mère.
Jack and Dexter...
Ouais.
Bon.
Nomme-les.
Je laisse finir ma
critique.
Mais ça pour dire qu'ils ressortent, donc c'est quelque chose que je vais vouloir essayer parce que moi, j'ai même pas joué aux jeux originaux. Puis maintenant, ils sortent en HD, fait que c'est sûr que je vais vouloir l'essayer.
Moi aussi, j'aimerais ça. J'en ai entendu parler souvent. On en a parlé cet après-midi pendant qu'on prenait une douche ensemble. Puis,
Et ça sort au Xbox et PlayStation. Il y a Resident Evil aussi qui sort, Operation Raccoon
City. God.
Oh boy. Qui sort au 360, au 360, PS3 et PC. Ça, c'est ce qui sort en gros, en tout cas, les gros titres qui sortent au fin mars, dans le fond. Aïe, vous m'énervez.
Je fais rien, Edem.
Ce sera pas long, je vais recommencer ça. Et pour le mois d'avril, ce qui sort... en fait, il y a The Witcher 2 qui va sortir au Xbox 360.
Qui est déjà sorti sur PC.
Oui, qui est sorti sur PC et qui a eu des critiques incroyables. D'ailleurs, qui est un des jeux préférés à Dom, qui se trouve être maintenant avec Factor Geek. C'est un de ses jeux de l'année. Ben, je crois que c'est son jeu de l'année qui l'a nommé.
Allô, Dominique Simon.
Allô, Dominique. Des déclarations d'amour. Donc ça va sortir au 360. Je me croise des doigts que ça sorte sur PS3, étant donné qu'on n'a pas de 360, parce que ce serait quelque chose que j'aimerais vraiment essayer.
Mais on a deux PS3.
Mais maintenant, on a deux PS3. Ça, c'est une autre histoire. On en reparle tout le temps. Alors, en gros, en avril, il n'y a pas grand-chose qui sort. Il y a Devil May Cry HD Collection, un peu le même concept que toutes les autres.
Ouais, que Shadow of the Colossus. Il y avait Ico aussi.
Jack and Dexter.
Ouais, ouais, OK.
Splinter Cell,
Lynn.
Je les frappe et je vous reviens. Il y a Xenoblade Chronic sur la Wii. Ils sortent encore des jeux, je suis quand même surprise.
C'est un jeu de Dr. Dre, ça? Non? OK. Aïe, excusez.
Et non, ils n'ont pas le choix de sortir encore des jeux sur le Wii.
Oui, non, je sais bien, ils n'ont pas sorti d'autres. Mais tu sais, les gros jeux, les gros titres, là, il y a Mario Party qui sort encore, mais je crois...
Ça m'a surpris. Oh, oui, quand j'ai su qu'il sortait un Mario Party 9...
Moi, je pensais qu'il finirait avec Zelda.
Avec Zelda, ouais, c'est ça.
Mais Mario Party, ça reste encore un gros titre au travers de ça.
Ah, c'est cool, des gros titres. Des gros titres.
Ce podcast est maintenant coté 13 ans et plus.
Oui, that's it. On est fini. Et il y a Prototype 2 qui sort... sur 360 et sur PS3. J'ai aucune idée c'est quoi. Je pensais que ça l'ouvrirait
à ça. Ben, c'est Prototype 2.
Je pense que c'est l'histoire d'un mutant qui a des super pouvoirs puis qui peut les le joueur peut les utiliser pour du bon ou du mauvais.
C'est-tu ça sérieusement?
Oui. Ah ouais. C'était le pattern du 1, j'imagine que le 2 ça va être...
Ok, mais je
ne
connaissais pas le 1 non plus tant que ça.
Non, mais je te présente.
Donc il sort le 2. Amusez-vous. Et c'est ça qui va sortir en fait en avril, donc il n'y aura pas grand-chose quand même, je trouve pas qu'il y a grand jeu, mais pour
ils n'ont même pas passé à ma fête.
Non, en fête, plus.
C'est à Tripac.
Bon, il ne dit pas de date. Alors, gâtez-vous avec Mario Party et continuez à jouer à Mass Effect 3 parce que je crois qu'il devrait avoir en masse de temps à dépenser dans ces jeux-là. C'est ce qui termine ma chronique. Nous allons passer avec Jean-François.
Ladies and gentlemen, please welcome to the podcast.
Jean-François.
Jean-François, tu t'es fait un beau cadeau dernièrement.
Ben oui, avant ma fête.
Avant ta fête.
Qui est après Pâques?
Mais que t'as-tu offert?
Que t'es-tu
offert, toi, là?
Une bébelle qui prend de la poussière.
Ah?
Un balai? Un Swiffer?
Oh, pitié!
Non, dans le fond, je me suis taché la PS Vita.
Chanceux,
comme vous savez, j'étais en vacances, hein, donc moi, c'était pas vraiment nécessairement prévu dans mon budget à mon retour de l'acheter, mais écoute, là, la veille, je fais... Oh, comme tant. Tu sais, là, je vois dans le journal Métro là, la grosse annonce Future Shop là, avec la console dedans. Là, que je... Ah, que c'est tentant.
Ça te faisait mal.
Oui, sauf que Future Shop, je les ai mis un peu de côté parce que EB Games offrait un bon deal quand même. C'était sur ramener 4 jeux récents pour une valeur de 8$ pour eux autres. On s'entend que...
Ouais.
Donc, ils donnaient 100$ de rabais.
Quel jeu t'as échangé? Je suis curieuse.
Qu'as-tu sacrifié?
J'ai sacrifié Alice in Wonderland.
OK.
Ah. J'ai sacrifié Mass Effect 2 parce que je déteste.
Ah, OK. Ouh. Fait que t'as vraiment pas essayé le
3. On vous donne ses coordonnées plus tard pour aller péter.
Je n'essaierai pas Mass Effect 3.
Mass Effect 3! Et j'allais louer la semaine passée, c'est super content.
Et deux jeux du DS, j'ai Kirby Mass Attack, que je suis en retard dans ma critique, hein, parce que je n'avais pas.
Et les DS aussi équivalaient dans les jeux que tu peux échanger.
Oui, parce que sont récents, sont sortis au mois de novembre, décembre, ces jeux-là, fait qu'ils étaient quand même assez...
Ok, ouais.
Puis j'ai vendu aussi Professor Layton and...
Le dernier qui avait sorti?
Oui, c'était un nom anglais, mais je me souviens pas. En tout cas.
Bob!
Professeur Layton and Bob! C'est le meilleur chapitre.
En tout cas, tout ça pour me donner 100$ de rabais sur la PS Vita, j'étais bien content, j'arrive chez moi. Ben, en premier, ce que je veux dire, c'est que j'ai acheté la fameuse carte mémoire qu'il faut acheter pour absolument jouer à un jeu.
Combien de gigs t'as pris?
J'ai pris 4 gigs parce que, tu sais, c'est bien beau épanier. Je recommence. C'est bien beau épargner 100$. Ouais. Je n'investirais pas dans une carte mémoire de 100$.
C'est ça.
Fait que j'ai pris la 4 gig qui était 20$.
Mais la différence, c'est aussi énorme que ça. Si tu passes, c'est quoi les choix de
4 gig, 8, 16, 32.
32, ça doit être.
C'est 32 et à 100$.
Ok.
Ouch. Ouais, quand même.
Achète une SD de 32, ça va te coûter à peu près 30$.
Là. C'est Sony, les SD ça marche pas.
Non, 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 mais ça je te dis, je veux dire, tu sais, ils en profitent. Là, ben, ils font ça depuis le début, même avec les Memories.
Ça a toujours été ça pour Sony. J'ai toujours des formats comme ça.
Ouais. J'ai acheté aussi la cassette, hein, parce qu'on va dire ça, c'était totalement des cassettes. d'Uncharted Golden Abyss, que je vais faire la critique après Kirby, là, éventuellement. Là. non, j'ai vraiment aimé ça. Écoute, la première chose qui m'a marqué, c'est quand je l'ai pris, c'est sa légèreté. Hein?
Oui.
Et quand même assez légère.
Je le fais live.
Oh. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'écran.
Ah oui, l'écran est immense, là.
Non, pas la luminosité, les couleurs.
Est-ce que c'est AMOLED ou est-ce que...
Oui, c'est AMOLED.
Je suis déjà en amour.
Ah non, c'est incroyable. Les noirs sont extrêmement
noirs.
On a
déjà fait une critique sur le site. Hein. C'est notre ami Jonathan qui l'a fait, qui est quand même très détaillé. Moi, dans le fond, j'en reparle pour acheter des affaires que Jonathan n'a pas écrit parce que c'est pas tout qui s'écrit. Hein. Des fois, c'est mieux en direct.
Oui.
Pour ceux qui ne le savent pas, c'est parce qu'on parle proche du micro, puis plus qu'on se rapproche, plus qu'on se regarde dans les yeux, il y a des intéressants qui se passent.
Et moi, je m'éloigne.
Ça devient sensuel, on vous épargne l'image.
13 ans et plus, hein, qu'on a dit tantôt.
J'envoie des vapeurs de mon souper dans la face à Jean-François, c'est noté.
Par contre, moi, ce que je voulais dire sur la vidéo aujourd'hui, c'est pas... J'adore la machine, ça, c'est quelque chose, sauf que j'ai quand même des affaires à reprocher. Donc... c'est l'écran d'accueil. Lorsqu'on veut ouvrir l'écran, il y a un genre de papier collant qu'on doit glisser avec notre doigt.
Okay. Écran de déverrouillage.
L'écran de déverrouillage. Hey, la boisson, ça suffit.
Les gants de dérouillage.
L'écran de déverrouillage.
Oui, absolument.
Il faut glisser avec le doigt. Ce qui arrive, c'est comme un genre d'autocollant. Et l'autocollant, une fois qu'il est glissé au complet, on tombe dans le menu principal. Sauf que l'autocollant, il laisse un petit coin bleu.
OK, ouais, je vois.
Sauf que, il me semble que ça aurait été la moindre des choses, que dans le petit coin bleu, on voit ce qu'il y a derrière le collant. Oh.
Ouais.
Jusqu'à un certain point, oui. Ceci étant dit, techniquement, si on y va au côté programmation, peut-être qu'ils mettent l'écran de déverrouillage comme un écran complet et qu'ils n'ont pas conçu d'avoir le menu... en arrière-plan.
Il peut avoir une capture du dernier écran qui avait été fait. Comme c'est le cas pour la plupart des applications sur iOS, quand on la démarre, c'est le dernier écran, puis après ça, il change. Ça donne une idée.
C'est un détail, mais je suis content que tu veux dire. Tu sais, pour une bébelle qui vient de sortir, ça aurait été cool. Que ça.
Avec l'avancement des concepts, il avait peut-être pas pu faire à cause de l'approche programmation puis de la gestion de... Bon.
Mais est-ce qu'on s'attend à ce que... J'imagine qu'il va y avoir des genres de mises à jour qui seront faites sur la PS Vita un peu plus tard. Peut-être que ce sera une des mises à jour qui pourrait être faite.
Ils ont changé l'interface de la Xbox dernièrement, donc ça ne me surprendrait pas qu'ils le fassent pour la PlayStation
3. La Xbox, c'est parce que ça venait le nouveau périphérique. Ils l'ont changé en grosse partie pour la
Kinect. Ça se fait très bien. Donc, une mise à jour de tout changer complètement. Ce que j'aime, c'est que c'est vraiment des icônes un peu comme les smartphones. Là. Il n'y a pas juste l'iPhone, il y a n'importe quel autre appareil à cette heure que c'est vraiment des icônes d'application. Mm-hmm. Que pour les déplacer, tu cliques un peu dessus avec le doigt. Donc là, j'ai pas fait la bonne affaire juste pour faire exprès.
Elle vient d'exploser.
Oh non!
Boum! Encore!
C'est ça, j'ai aucune idée. Mais si tu cliques, tu laisses ton doigt un peu dessus longtemps, puis tu peux la déplacer devant l'écran. Ce que j'aime moins, c'est que là, mon iPhone est ouvert à côté pour donner un exemple à nos interlocuteurs.
Ouais, là, vous le voyez.
Non, c'est nous les interlocuteurs.
Oui, pardon. À nos auditeurs. Mais c'est à vous, c'est vous qui le voyez. Vous voyez, les icônes du iPhone sont très claires. Mm-hmm. Tandis que ceux de la PS Vita, on dirait qu'il y a une lumière qui en entoure.
Ça fait comme un relief, en fait.
Ça fait un relief, mais c'est pas très beau.
Mais essayez de faire une espèce de sphère profilée, puis ça fonctionne pas.
Non, ça fonctionne pas.
Je trouve ça moins beau que, justement, ben, on regarde des icônes d'iPhone, je trouve ça moins beau, en fait.
Oui, puis l'écran est très bel, là. Mm-hmm. Sauf qu'ils l'ont pas du tout pour les icônes.
En gros, c'est comme s'il y avait une boule, puis qu'ils mettent une image dessus, au lieu d'avoir... l'image texturée.
Mais c'est moi ou il bouge?
Il bouge.
Oui, c'est pas la toile,
c'est la toile.
Puis, dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs pages comme le iPhone, comme que vous voyez ici.
Okay. Mm-hmm.
Mais sauf qu'ici, on peut changer l'image de chaque page.
Mais c'est drôle, à chaque fois que tu changes de page, tout éteint et rallume.
Ouais. Oui, mais c'est ça.
Ça load une nouvelle page.
Ça load une nouvelle page.
Et
une nouvelle photo. Sauf que le délai est quand même long. C'est ce que je reproche.
Quand tu es habitué à la réponse d'un iPad ou d'un iPod touch.
Ça fait comme un délai étrange.
Ben, parce qu'en fait, avec leur iPhone, quand on regarde toutes nos images qu'on a, ça fait pas de délai comme non. ça.
Tu parlais de microsecondes, millisecondes tantôt, là, ça c'est facilement une seconde avant qu'il y ait.
Ouais, mais là, ça, c'est pas l'écran tactile, c'est le délai.
C'est au niveau du système.
Qui fait comme ça.
Là, j'ai mis la même image.
Peut-être qu'ils ont jugé tout simplement que c'était pas important. Puis que...
Mais c'est quand même important.
Mais
quand
moi, je trouve que
c'est, ouais, c'est l'expérience que tu as en tant qu'utilisateur qui est affectée.
Moi, je pense que ça sent vraiment une mise à jour qui sera faite pour vraiment l'améliorer. Que justement, on va en parler, de dire bon, enfin, ils ont amélioré
la. Si on amène le même exemple avec ton iPhone que tu présentes à côté, le premier iPhone n'avait pas d'image de background quand on défilait les icônes. Donc,
il fallait faire un jailbreak.
Peut-être que la PS Vita, ben, c'est comme ça. Puis les prochaines mises à jour, ils vont améliorer l'interface, ça va être plus beau, ça va être plus rapide.
Parce que c'est facilement facile de changer. C'est facilement facile.
C'est très facile
de changer l'image. Vous voyez ici qu'il y a une petite icône qu'on peut choisir des couleurs, puis pour choisir des images, ben, c'est le fichier que là. Que j'ai pu, qu'il faut downloader un programme sur l'ordinateur pour aller chercher des images dans un tel fichier. C'est assez compliqué.
C'est un peu lourd.
C'est pas par genre de Wi-Fi, c'est pas possible
non.
C'est
probablement comme les mini-disques qui avaient l'utilitaire pour transférer la musique dans le format propriétaire de Sony et la mettre sur le périphérique.
Mais c'est long,
longtemps. Mais ça Jonathan en parle un peu dans la chronique, donc dans sa critique, donc j'en parlerai pas plus. Là.
C'est son lit.
Moi, dans le fond, ce côté-là, c'est ce qui me dérange, mais je veux, tu sais, au niveau des pots, là, quand même, pour être positif, c'est que le retour des cassettes, je trouve que c'est génial. Parce que dans le fond, c'est stable. Puis,
ça
c'est pas
du temps de chargement comparé au disque, même.
Uncharted est quand même assez lourd. Fait que des fois, ça peut charger assez longtemps. Sauf que c'est quand même des disquettes, là. Des petites cassettes. Fait qu'on s'entend que c'est pas lousse, on va dire, comme une cassette de Nintendo dans un Nintendo. Fait que tu peux la bouger en masse, là, ta console.
Ouais, c'est comme les cartouches de jeu dans la DS. Là, c'est le même.
C'est ça. Fait que pour ça, c'est très bien. Puis je trouve que, tu sais, avec la PSP Go, qui avait enlevé totalement le support physique. J'avais très peur, moi, qu'il arrive la même affaire avec la Vita, mais dans le fond, ils ont gardé le support physique avec ça. Mm-hmm. Je trouve ça très bien. J'espère qu'ils vont continuer à garder s'ils font d'autres mises à jour de la console, parce que la PSP normale a eu 3-4 mises à jour, là. Il y a eu 3-4 PSP différentes. Dans le fond, comme Laurent a dit, l'écran, écoute, est immense, est super belle, est aussi grosse que l'iPhone. Jonathan en a parlé dans la critique, vous voyez là.
Il fait se mettre à deux pour la rentrer dans le salon.
Je la mets dessus là.
Oui, puis là, dans ta phrase, c'est est aussi grande que le iPhone et non pas aussi grande que l'écran iPhone.
C'est ça.
C'est vraiment grand.
Ouais.
Mais c'est parfait pour une plateforme de jeu comme ça.
La batterie, ça a l'air de quoi? Sûrement que Jonathan en parlait, mais quand même.
Quand on met en mise en veille, on peut choisir en 1 minute, 2-3 minutes avant que ça embarque en mise en veille soi-même. Mais on a juste à faire un petit coup sur le bouton power, puis ça tombe en mise en veille.
Okay.
Ça peut facilement durer 3-4 jours facilement.
Wow, quand même.
Ouais. Sauf qu'il faut désactiver peut-être le Wi-Fi, Wi-Fi, parce que moi j'ai l'application Near qui détecte ceux qui jouent avec leur PS Vita dans les environs.
Fait que c'est constamment en scan.
Ça paraît parce que j'ai l'image ici qui flash l'image de la PS. Là.
Le petit logo.
Le petit logo qui flash de temps en temps, ça veut dire qu'il charge.
Est-ce que tu as la version 3G?
Non, j'ai pas la version 3G parce que c'est 50$ de plus. Et avec l'iPhone 4S, je peux transférer. Ça sert de modem, ça.
Ouais, tu peux le point d'accès Wi-Fi.
Le partage de ma connexion 3G. Fait que pourquoi payer 50$ de plus quand j'ai déjà un appareil qui peut partager ma connexion?
De toute façon, et quand ça détruirait ta batterie beaucoup plus en plus?
Sûrement,
oui. Les grosses tâches de recherche ou de quoi que ce soit que tu as à faire. Mis à part le téléchargement de jeu, évidemment, sur ta console, mais tu peux les faire sur ton iPhone.
C'est un point que je peux reprocher, c'est que même avec le Wi-Fi, le téléchargement est très long avec la PS Vita. Oui, ça, je l'ai reproché. Là.
Tu l'as essayé avec plusieurs
consoles. Je l'ai essayé avec l'émission de tester. Okay?
Mm-hmm.
Mm-hmm. Ça a duré 30 minutes
pour télécharger un épisode.
Pour télécharger de 45 minutes.
Hey boy.
C'était quand même long.
Probablement que l'épisode était quand même juste à 700 mètres.
Je suis pas à 500 KS là, chez nous. Là. J'ai le 30...
T'as le 30
mégabits.
Auquel cas, c'est moins la PS Vita et plus probablement les serveurs de Sony qui n'étaient pas capables de fournir la demande.
Ça ressemble à ça, oui.
Valeur,
mais bon.
Ça fait quand même que tu l'utilises puis tu vois une petite lacune.
Au niveau, moi je trouve que la capacité de la console est vraiment intéressante. Mm. Ça peut vraiment faire. Je l'ai essayé chez moi, je l'ai essayé d'ici, ça n'a pas fonctionné, fait qu'il faudrait que je refasse d'autres tests à la maison. Je suis capable de démarrer ma PS3 à distance, qui peut-être qui était la même chose avec la PSP, j'en ai pas eu.
Non.
Puis à partir de la PS3, présentement, la seule chose qu'on peut jouer dessus, c'est des jeux de PS1.
OK.
Fait que j'en ai quelques-uns que j'ai achetés sur le PS Store qui sont sur ma PS3.
Sont
à
ta console.
Et que je peux jouer en streaming sur ma PS Vita.
Quand on peut jouer
à partir de mon PS3.
C'est ton PlayStation qui, à la maison qui fournit les ressources, puis ça te stream le vidéo.
Ouais.
Un peu comme OnLive fait
sur oui, la
Chrono Cross.
Et qu'est-ce que ça donne comme délai?
Aucun délai.
Ah, il y en a pratiquement pas. Pour avoir essayé OnLive sur plusieurs plateformes, là, autant sur ma grosse machine de gaming que sur un petit laptop cheap, ça prend pas, ton ordinateur prend pas de ressources. Tant que ta connexion Internet est stable, ça stream le vidéo de ce que toi tu
joues.
Mais
c'est bizarre, ça n'a pas génial. De sens parce que c'est long à télécharger une application ou quoi. Et par contre, ça stream très bien.
C'est justement, techniquement, tout le traitement va se faire sur la PS3. Tu vas juste avoir le flux d'images optimisé pour transmission.
On s'entend que puisque c'est streamé, on perd un peu de qualité d'image puis ça paraît.
Mm-hmm.
Ça,
ouais, ben c'est pour que ton expérience de jeu reste fluide.
Ouais, pour que ce soit le plus rapide possible. C'est sûr. On coupe dans la qualité.
Faut sacrifier à quelque part.
Mais c'est surprenant quand même de. Tu sais, il parlait que les jeux, justement, genre Little Big Planet puis un paquet de jeux seraient capables de le faire.
C'est
là, pas, encore.
C'est pas encore compatible. D'après moi, ça va prendre encore quelques temps. Mais moi, je dis à Sony, vous êtes mieux de le faire avant Noël parce que si vous voulez vendre des PS Vita puis que c'est pas encore compatible avant Noël, vous allez dropper dans les ventes.
C'est ça, c'est ce qui vendait le plus là, de dire que
parce tu peux pas partir. Ils ont parti leur machine avec ça, qu'on pourrait jouer un jeu à la maison et continuer à l'extérieur.
Partir, c'est ça.
Sauf qu'à l'extérieur, est-ce qu'il faut le 3G? Ça, j'en ai aucune idée.
Ouais, si t'es dans le métro, là. Si,
c'est ça.
Dans le métro, oui. C'est ça. Dans le métro, c'est sûr.
Ça, c'est soit t'es à Wi-Fi avec une bonne connexion.
Et à quel point ça va prendre la bande passante si ça passe sur Internet?
Ouais, ça, au Québec, on va peut-être avoir un problème parce que, honnêtement, les connexions, on peut avoir jusqu'à 30 mégabits ou, disons, 2 mégabits en téléchargement, mais téléversement, l'upload, on est.
Ouais, mais t'as pas besoin d'upload pour ça, c'est juste les contrôles qui sont.
Non,
c'est
vraiment. Juste uploader quand t'es à l'extérieur de chez toi et que tu veux jouer.
Ah, tu veux dire, t'as pas ta console chez toi. Oui,
c'est ça. Là, tu vas avoir besoin d'une grosse vitesse de télédéchargement ou de téléversement.
Justement, en fonction de pouvoir fonctionner avec la majorité.
Le fait que c'est pas t'as pas un écran 52 pouces dans les mains, mais même s'il y a quelques défauts dans l'image, ça paraît un peu moins.
52 pouces mais d'un autre côté, la résolution d'écran est quand même assez précise.
Oui, pour vrai, oui, c'est clair.
Il y a deux méthodes de se brancher via la PS3 avec la PS Vita. C'est par connexion d'un réseau privé. Moi, d'après moi, c'est le Bluetooth.
Non, c'est du ad hoc. C'est périphérique et périphérique.
OK.
C'est du sans fil, mais entre les deux.
OK. Donc, ça ne gruge pas la bande passante. Et il y a par connexion Internet que là que ça doit gruger la bande passante.
Évidemment.
Donc,
des deux côtés.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est pas mal ça pour les pour. Et les contre, moi, je dirais vraiment, encore une fois, que c'est les cartes mémoire qui sont vraiment hors de prix pour le moment.
Non,
ça va peut-être diminuer avec les années parce que la technologie augmente.
Ben là, c'est pas une question de technologie, puisque les cartes mémoire sont déjà beaucoup plus chères que le même équivalent en carte mémoire d'une carte SD. Donc, le prix est bien.
Ce que je dis,
semble
c'est
être
que
fixé volontairement.
La capacité va peut-être augmenter parce qu'on s'entend que présentement, 32 GB sur une carte. Parce que les cartes sont minuscules, là, je vous les montre ici. Là. C'est très petit. Là.
Ouais. C'est l'équivalent d'une micro SD.
C'est ça.
Ouais, ben c'est un petit peu plus gros qu'une micro SD, mais juste pour dire.
C'est une puce de carte de crédit.
Fait qu'on s'entend que c'est normal que la limite, c'est pas mal ça, 32 GB pour cette grosseur-là.
Oui.
Fait que peut-être dans quelques années, il va avoir une capacité plus élevé,
64.
Et que ça, peut-être que le prix va rentrer en considération, mais juste que le qu'il aille plus élevé, parce que même à 32 GB, si vous achetez beaucoup, énormément vos jeux par téléchargement, ça va vous coûter cher.
Ah oui, c'est ça.
Juste de carte mémoire. Là. Parce que ça, on en a parlé dans l'article que je vous conseille d'aller le lire pour les questions de prix, de
ça va bien
le
remettre dans le boîtier, Jean-François?
Ah, je vais y arriver. Donc, pour les autres contre, j'ai remarqué qu'avec le fil de chargement pour la recharger, on peut jouer avec pendant qu'elle est branchée. S'il y a ça, il n'y a pas de problème.
Mm-hmm.
Sauf que c'est un fil USB qui se branche dans la machine,
oui.
et que le fil USB se branche dans une petite boîte avec une connexion électrique normale.
Mural, okay, ouais. Ouais.
Fait que c'est un deux fils en un,
un
fond,
peu comme un iPhone.
Oui, c'est ça, comme la plupart des cellulaires, d'ailleurs. C'est souvent un fil de mini USB ou micro USB
avec un adaptateur
qui va dans le mur.
Sauf que lorsqu'on veut, on peut se recharger avec le fil USB seulement,
mm-hmm.
lorsqu'elle est éteinte complètement. Donc, on ne peut pas jouer avec
et
qu'elle soit, qu'elle soit branchée par USB, à moins que tu sois baisse, parce que c'est ça. Tu sais,
USB à un ordinateur ne charge pas si elle est allumée.
C'est ça, il faut absolument l'éteindre. Ça, je trouve ça un peu dommage, là, mais...
T'as beaucoup d'appareils
jouer à côté du toaster.
OK. Ouais, parce que ça gruge trop d'énergie.
Il y a des limitations, exact. Il y a des limitations en capacité des prises USB.
Jean-François est toujours en train d'essayer de rentrer sa carte dans
le futur, je pense qu'ils sont en train d'essayer de faire des ports USB qui fournissent plus de courant.
Oui, effectivement. La plupart des appareils consomment vraiment beaucoup.
Fait que c'est pas mal tout pour ça, parce que je vous dirais que le gros a été dit dans l'article de Jonathan que je vous conseille de lire, hein, geekbécois.com, allez-y.
Oui.
Donc, je vais y arriver, je vais aller récupérer la clé.
Alors, la semaine prochaine, on va regarder Jean-François qui termine de rentrer la carte noire.
Et ce n'est pas une blague.
J'ajouterais donc un contre, peut-être la pochette.
Oui.
Qui ressemble déjà à une boîte à pilules de petits vieux.
Oui, c'est vrai.
Ah, je l'ai.
Ah, il l'a.
Je peux te la sortir, là?
Mais merci beaucoup, Jean-François, c'est pour ces détails que tu as ajoutés. Et comme tu l'as rappelé si bien, il y a eu un oh boy!
Yeah!
Il y a eu un superbe article qui a été écrit sur Geekbécois par Jean-François, dont
Jonathan.
Alors, allez lire ça sur geekbécois.com et merci beaucoup. Et à vous tous, allez acheter la PS Vita.
Si vous avez budget.
Des actions chez Sony.
Je vais regarder celle de Jean-François.
Voilà. C'est une belle machine.
Ouais. Merci Jean-François.
Ça fait plaisir. Jeune homme dans la vingt trentaine, célibataire, professionnel. Il apprécie les marches sur la plage, mais surtout sur un escalier. Il recherche une femme, de préférence, qui sera aimée, l'homme qu'il est, de préférence. Geek, techie, blogueur et séducteur, il aime les bébelles électroniques. Assez grand pour entrer dans le Goliath, il a des cheveux et des yeux. Contactez Renaud au 410-872-2. Renaud,
re-bienvenue parce que c'est ton deuxième podcast que tu es avec nous.
Ça a bien été avec la chèvre la dernière fois?
Vous n'avez pas réussi à vous débarrasser de moi, désolé.
Il est capable d'en prendre. Alors, Renaud...
La chèvre aussi.
Alors, Renaud, t'as un petit commentaire assez éditorial à venir. Alors, vas-y, on t'écoute et on est prêts à en prendre d'autres avec.
Je sens que ça va être long. Bon, je vais commencer avec une petite actualité du monde Android, où en fait, techniquement, il faudrait que je dise Google.
C'est Google, Google?
Google, oui.
Ça a bien été.
Totalement. Donc, avant, bon, on se le cachera pas, je suis quand même un utilisateur Android assez... vocal?
Fermé!
Fervent!
Non, fervent, c'est encore...
C'est
pas ça, c'est parce que fervent, c'est encore pire. Okay. Ça introduit une certaine conception de religion, quoi, que des fois, je pourrais passer pour ça.
Peut-être.
Mais bon.
Le mot juste.
Presque.
J'ai pas dit sectaire.
Tu viens de le dire.
Bon,
mais bon.
La chèvre.
C'était... Donc, revenons à nos moutons.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, Google a procédé la semaine passée au relancement de beaucoup de ses marques, à une réunification carrément de plusieurs marques assez disparates qui sont utilisées à même Android. Donc, je parle ici du Android Market, mm-hmm. le marché, Google Music, qui est aux États-Unis un service d'hébergement et de vente de musique.
Toujours pas disponible au Canada, c'est ça?
Malheureusement.
Ben, après, regarder, ouais, à part en faisant un proxy, tout ça, mais les, techniquement, toujours rien.
Ouais. bon, j'utilise pas le proxy pour acheter la musique, mais j'utilise quand même leur hébergement. C'est quand même assez amusant et utile comme concept. Google Books, lecture de livres et utiliser par exemple une tablette Android comme une liseuse. Mm-hmm. Et Google Vidéo, qui permet de louer certains films en résolution normale ou en HD. Ces quatre produits-là étaient disponibles et sous Android, et certains music, books et vidéos sur des appareils normaux. On parle ici, par exemple, du web, donc n'importe quel portable.
Okay.
La semaine passée, donc, Google a carrément fait une réunification de tous ces produits-là en l'espace Google Play.
OK. Fait que là, tout ça, c'est devenu Google Play.
Bon, tout ça, c'était quatre portails différents. Les portails en tant que tels existent encore, mais ça redirige tout ça à un portail, un environnement. Et aussi, cet environnement-là insiste moins sur le fait que c'est utilisable sur Android et sur d'autres, et beaucoup plus à la neutralité de la plateforme.
Okay.
C'est Google Play Store. Pour le marché des applications, Google Play Music pour la musique, évidemment, Google Play Books pour aller lire un livre.
Dans le fond, ça rend ça un peu plus simple pour le marché.
Et voilà. Parce que dans tous les cas, c'est sûr que tu vas acheter un livre, acheter de la musique, acheter des locations de films ou vidéos. Donc,
l'objectif en tant que
consommation de médias, on va tout ensemble dans un.
C'est ça.
C'est l'objectif comme Apple Store.
Ben, ouais.
Le iTunes Store, devrais-je dire, ben, c'est là qu'on achète tout ça.
C'est carrément ça. Ils voulaient essayer de détacher l'étiquette Android. Merci pour l'illustration, Steve. Ils voulaient essayer de détacher un petit peu l'étiquette Android. Là, oh, on sait bien, Google, c'est Android.
Ouais, ouais.
Fait que, bon, avec ce relancement-là, à date, il y en a beaucoup qui disent « Oh, mais on voulait quand même l'Android Market ». Mais bon, ça, il y en a toujours qui vont résister au changement.
Ouais, c'est ça.
C'est comme Apple qui a mis des arrière-plans. Il y en a probablement qui ont vociféré, qui voulaient pas de background, que ça utilise de la batterie.
Ils préféraient mettre ça plus simple. Oui, oui. Ça, il va y avoir des discussions là-dessus tout le temps, je pense.
C'est éternel.
Et maintenant, je crois qu'on y va avec un côté assez éditorial, monsieur Android. Oh, je l'ai dit.
L'as-tu vraiment dit ou est-ce la vérité? Mmh. En fait, mon commentaire éditorial, c'est moins. Ça vise beaucoup moins iOS en tant que tel, mais plus les réactions des utilisateurs iOS à ce que je vais dire. Mmh. En gros, personnellement, je commence à être un petit peu tanné. Pas du fait de me faire pointer du doigt et qu'on me challenge à tout moment parce que « Oh, mais pourquoi t'as pas iOS? » J'ai Android. Pourquoi t'as Android? C'est pas iOS. Ma tête veut exploser.
Sauf... C'est une question que les utilisateurs d'Android me posent aussi. Pourquoi t'as pas Android?
Exact.
Ben, je sais pas, j'ai iOS.
C'est un choix personnel.
C'est ça.
Je pense pas que tu peux les blâmer de te poser cette question-là dans le même sens que la question est dans les deux sens.
Mm-hmm.
C'est censé. Oui, ça je dis pas. Mon problème, c'est pas nécessairement la question, c'est plus que les utilisateurs de iOS se font donner des munitions par justement les constructeurs de téléphones. T'as beaucoup de constructeurs, t'as Sony Ericsson, maintenant réunifié dans Sony Mobile, mm-hmm. t'as LG, t'as Samsung, t'as Texas Instruments, ça c'est des chipmakers, Motorola, ZTE. Mon argument, mon commentaire éditorial, c'est tout ça, toutes ces marques-là prennent Android, mais vendent leur téléphone comme étant Android. Quand en fait, techniquement, à part certaines compagnies, d'habitude, c'est pas tant Android que leur version d'Android. En diluant, en différenciant trop le système qui est dans les téléphones, on en vient à déstabiliser la plateforme, à perdre un petit peu la vision de Google, parce que avec les Nexus à chaque année, Nexus One, Nexus S, Galaxy Nexus, t'as ce que Google pense être Android. Mais la dilution et le et toute la déstabilisation, toute le « Ah, mais mon Android fait ci, mais ton Android fait pas ça. »
Mais ça, c'était une décision volontaire de Google dès le début de permettre à tous les constructeurs de faire la personnalisation du système parce que leur vision, c'était pas de créer un grand compétiteur unifié à iOS, mais plutôt de fournir une plateforme qui permet à chacun de faire son compétiteur à iOS.
Tout en gardant quand même une plateforme commune en gardant, disons, le contrôle du branding avec une suite de tests qui fait que le téléphone est jugé compatible à Android, c'est un téléphone Android. Mon commentaire éditorial de la semaine, c'est j'aimerais ça que Google finisse par mettre leur culotte.
Oh,
et oui,
il fait froid.
Carrément.
Peut-être
oui.
Qu'ils veulent pas. Pourquoi qu'il faudrait qu'ils veuillent
c'est
ça?
Je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est peut-être un équivalent de Ubuntu, tout ça. Tu sais, c'est chacun.
Bah oui, chacun fait sa sauce, puis peut-être que c'est exactement ce que Google veut.
Le problème, c'est que en faisant trop leur sauce, tous ces constructeurs-là déstabilisent le cœur d'Android et en le différenciant trop, t'en finis à avoir un produit qui est tellement différent qu'on pourrait même pas l'appeler vraiment Android.
Sauf qu'ils en vendent des millions et des millions et des millions d'appareils.
Mon problème, c'est plus que Google...
La sauce a bien fonctionné pour tout le monde.
Mon problème,
les utilisateurs d'Android sont tous, à part toi, très contents de leurs appareils et de ce qu'ils sont capables de faire à faire.
Je dis pas qu'ils sont pas contents. Je dis pas qu'Android est pas puissant. Mon problème, c'est que en amenant trop de différences avec des appareils, en amenant trop de... Oh boy, je me suis juré de jamais utiliser ce mot-là de fragmentation. La différenciation est telle qu'il y a des fonctionnalités sur un téléphone qui ne vont pas se retrouver sur un autre. Il va y avoir une accélération qui va manquer, ce qui veut dire que le jeu, par exemple, va fonctionner moins bien ou ne va pas être compatible avec ton téléphone, même si c'est une dernière technologie.
Mais toi, dans le fond, ce que tu veux, c'est qu'il y ait une uniformisation du modèle Android.
Une uniformisation un petit peu plus solide.
Ouais, mais ok, je comprends. Sauf qu'à quelque part là-dedans, il y a aussi le consommateur qui a sa responsabilité de s'informer comme il faut, dépendamment de ce qu'il a à faire avec son appareil.
Deuxième commentaire éditorial de la semaine.
Le consommateur a toujours raison.
Le consommateur a toujours raison, sauf, je vais citer un site web, Clients from Hell. Il y a des consommateurs qui pensent qu'ils savent, mais qui ne savent pas.
C'est ça. Mais c'est pas grave qu'ils savent ou qu'ils savent pas. Le fait est que les gens achètent un téléphone Android, ça fait des choses, ils en sont contents, leurs amis aussi achètent un téléphone Android. Google est content, manufacturier est content. Il y a juste toi, dans le fond, là, qui voudrait que tout ça soit ensemble, mais est-ce qu'il faudrait vraiment? C'est-tu une utopie qui devrait exister?
Regarde iOS.
Ça semble fonctionner.
Moi, je pense qu'ils font ça pour une question d'argent. En donnant plus d'options, ils sont capables d'aller chercher un meilleur marché. Ils sont capables de manger dans le marché d'Apple. That's the plan.
Et est-ce que, justement...
ils vont par le volume.
Ouais.
Puis aussi, je tiens à mentionner un point, c'est qu'ils n'auraient jamais eu la participation des manufacturiers au point zéro s'ils ne leur avaient pas permis de personnaliser l'appareil. Les manufacturiers, faut comprendre que quand Apple est arrivé, il était le manufacturier. Mm-hmm. Il pouvait se permettre de changer les règles. Mais on a des dizaines d'années de manufacturiers de téléphones qui ont toujours tout fait par eux-mêmes,
ouais.
Que ce soit les Motorola qui ont implémenté différemment leur système des autres. Il n'y a jamais rien qui a fonctionné ensemble. Là, ce que Google a fait, c'est partir de zéro puis il n'y a rien à vraiment beaucoup. C'est pas 100%, mais... c'est pas mal proche. On a quelque chose qu'on n'a jamais eu avant avec les tiers, les manufacturiers indépendants. C'est bon.
Oui, c'est quand même bien.
Puis, comme je disais, il n'y aurait pas eu la participation des manufacturiers s'ils n'avaient pas pu faire ça. Les manufacturiers auraient continué de faire chacun pour ça. D'ailleurs,
ouais.
Microsoft a de la difficulté à faire vendre le Windows Phone aux manufacturiers parce qu'ils sont plus rigoureux sur justement ce que tu critiques. Parce qu'ils ont décidé d'attaquer leur compétition au marché des téléphones en étant plus unifié plutôt que plus diversifié. C'est une décision.
Il y a beaucoup de façons de faire une unification ou de reprendre un petit peu plus contrôle de la marque tout en étant laxe sur le dit contrôle. Microsoft, comme tu viens de le dire, le font peut-être mal. Peut-être qu'il y a quelque chose de plus à faire sur Android. Google prenne, par exemple, peut-être une bonne initiative avec Ice Cream Sandwich
en essayant de garantir, par exemple, ce qu'ils appellent Holo, qui est une apparence interne d'application, le programmeur va pouvoir dire « Ok, je prends l'interface Holo par défaut ou je prends l'interface du constructeur par défaut. » Google essaie d'amener ça avec Ice Cream Sandwich Android 4.0. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va être assez? Est-ce que ça va pas l'être? J'aimerais ça voir un petit peu plus de contrôle de la part de Google tout en gardant la variété que fait le système d'Android.
Ouais.
Mais pour l'instant, je suis un petit peu déçu du fait qu'il y a tellement...
Ils ont plein de potentiel, mais c'est pas encore réalisé
c'est
à la
ça.
Pleine capacité.
Le potentiel ouais, est là. C'est ça. Le potentiel est là. Il demande à être utilisé, mais à cause d'une unification pas assez bien faite ou pas assez raffinée.
Mais peut-être que tous les manufacturiers n'y verraient plus d'intérêt si leurs appareils étaient identiques à celui de la compétition.
Mais ils ont quand même 40 à 50 % du marché déjà avec Android.
Mais justement, ça démocratise le marché, tout ça. Les prix, ils baissent. Regarde les prix d'Android par rapport au, au iPhone, là, t'as une grosse différence.
Pour la même performance, coup droit.
J'ai l'impression que ce que tu dis là, c'est qu'un peu... Ce que tu voudrais de Android, c'est un peu ce que tu reproches à iOS.
Oui et non. Alors, je dis pas qu'il faut qu'ils soient tous pareils, mais il faut quand même avoir.
Ben, ils sont déjà vraiment pas mal proches.
Mais moi, ce que je trouve
cool, la majorité d'applications fonctionne sur une très grande majorité d'appareils, puis pas mal tout le monde peut se retrouver. Oui, c'est sûr. Quand j'ai pris un Sony Xperia pour la première fois, j'étais un peu dérouté. J'ai dit, Android ça, aïe, aïe, puis. Ça fonctionnait un peu bizarrement, mais je m'y suis vite reconnu parce que c'est quand même Android qui est derrière. La sauce Sony est différente de la sauce de HTC.
Mais bonne pareil, la sauce.
Ben oui, parce que c'est un téléphone qui est très populaire.
Sony sauce.
Mais pour vrai, je suis un peu avec ce qu'Alexandra disait. C'est bon, ça offre le choix aux consommateurs. C'est pas juste, bon, vous avez le choix entre iOS qui a une forme ou Android qui a une forme fermée. C'est le fun d'avoir les deux modèles de... Ben, pas de vente, mais les deux modèles...
Je dis justement ouais, pas de fermer Android, mais au moins que ça soit pas...
Qu'il y a une idée de base, une ligne, là.
Une idée de base un petit peu mieux formée. C'est ça.
Okay. Ben, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est rare que je comprenne des trucs intelligents que je comprends.
Ben, merci beaucoup, Renaud. C'est très éditorial et très intéressant et ça a lancé un débat que j'aime. Merci. Maintenant, allons-y avec Steve. Steve, toi, là.
Toi, l'avant dans l'ombre, dans la nuit.
Alors, le jingle de Steve, cette semaine, c'est Jean-François.
C'est là. C'est la chronique de Steve
Deguerry.
Alors Steve, un peu comme Jean-François, toi aussi en fait, t'as reçu un cadeau à Noël passé et tu voulais nous en parler un peu plus en profondeur.
Oui, y a-tu
juste... Père Noël?
Hein? Oui, le Père Noël, pour me remercier de l'avoir aidé avec ses courriels et tout le kit, et il m'a donné un cadeau.
Oh.
Mais il m'a donné d'autres choses, mais j'ai pas le droit d'en parler.
Oh. Parce que... Des boutons.
Des rougeurs.
Oh, ouais.
Ok, donc Scam, c'est pas un geek de quoi extra ici.
Non.
On est discipliné et on est tight.
C'est à peu près tight.
Ben, moi, je suis plus tight, là, mais en tout cas. Merci, Père Noël. Bon.
Okay.
Ok, excusez. Bon, on va commencer. Alors, oui, Lynn, même si tu ne m'as pas posé la question, oui, je vais te parler aujourd'hui du DJ2Go de Newmark.
Est-ce que tu vas nous parler du DJ2Go de Newmark?
Mais tu lis mes pensées.
Mm-hmm.
C'est ça, comme tu dis, c'est un cadeau que j'ai reçu de mes beaux-parents. Tu les connais bien.
Oui.
C'est un cadeau que... C'est une petite bébelle qui m'intéressait quand même après l'avoir vu à une certaine émission de télévision, Monsieur Net pour pas la nommer.
Ah, ça me dit quelque chose.
Ben oui. Ben, c'était Alex Keno de Mogodio qui l'avait apporté pour en faire une petite démonstration. Et puis moi, ça fait longtemps que je me cherche. En fait, je vais expliquer ce que c'est. Le DJ2Go, c'est un contrôleur MIDI pour les DJ, pour mixer de la musique avec un logiciel. Donc, ce que ça fait, c'est que ça remplace le gros setup, le gros kit. Platine, mixeur, contrôleur,
ou table tournante, peu importe quel setup. Puis ça le compacte vraiment dans un contrôleur qui, lui, va envoyer les contrôles que tu effectues avec un logiciel, dans ce cas-là, Virtual DJ.
Obligé d'être celui-là?
C'est configurable, c'est avec plusieurs logiciels connus comme Traktor, il y a aussi l'autre. Puis l'autre, mais Limited Edition. Non, mais c'est ça.
Y a-tu l'autre pro?
Non, mais il n'est pas sorti encore. Ils sont en bêta. C'est l'autre
bêta. Ça va être le nouveau.
Le nouveau l'autre. C'est cool. C'est comme on revient en arrière. J'aime ça. Non, c'est
juste
ça.
Juste pas le dire.
OK. C'est ça. Ils ont sorti, en fait, Virtual DJ ont sorti une version custom.
Personnalisé.
Je l'ai dit avant toi. Personnalisé. J'avais peur de ne pas le sortir maintenant. Pour le DJ To Go, qui fait que en fait, ce que vous avez dans les mains, qui est la console, le contrôleur, vous le retrouvez les mêmes contrôles à l'écran. Donc c'est juste pour donner un feedback visuel de ce que vous faites. Et puis, ma foi, c'est l'expression plug and play prend vraiment tout son sens avec ça. Ça fonctionne par USB, ça contrôle en MIDI. Donc un peu le même principe que ceux qui utilisent. Des synthétiseurs, des pianos, des claviers en MIDI pour contrôler. Ouais, j'ai tout sorti synonyme. Avec la face que tu m'as faite, il était temps que j'arrête. Puis c'est ça, ça va contrôler en fait le logiciel pour mixer vos chansons qui se trouvent, votre bibliothèque musicale qui se trouve sur votre ordinateur ou si vous avez un CD de musique dans votre lecteur CD-ROM, ça peut aller aussi chercher ça et le contrôler. Comme si c'était, ça faisait partie de votre bibliothèque de DJ. Donc, moi, j'ai un gros système.
Un vrai kit.
J'ai un vrai kit de Newmark aussi. Le CDM35, si ça vous intéresse, vous allez voir. C'est quand même un trait de base. C'est un lecteur de CD double avec un contrôleur, un contrôleur pour chaque platine, puis un mixeur. C'est que c'est quand même pas toujours pratique à transporter lorsque je vais faire des petits contrats. Mais je suis habitué de travailler avec, ça va bien. Ce que j'aime avec le DJ To Go, c'est que je retrouve exactement, en très abrégé, là, mais la même interface, c'est-à-dire les boutons sont aux mêmes places, comme le bouton Q, le bouton Play.
J'imagine qu'étant donné que c'est Newmark aussi, ça se retrouve un peu, ou toutes les kits de. Toutes les consoles de DJ sont semblables?
Ben, ça y va par volet. Tu sais, il y a. Comme moi, ce que j'ai, c'était beau ma voix. Ça y va par volet. Non, mais ce que moi j'ai, qui est un contrôleur à CD double, une autre marque qui va en faire, Gemini, Pioneer ou quoi. Les Pioneer, ils ont leur produit à eux autres, là. Mais c'est pas mal tout semblable, ça fonctionne pas mal tout de la même façon. Ben, c'est ça, le DJ To Go de Newmark.
Mais pour quelqu'un, ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui connaît justement, toi, t'as un kit de DJ de Newmark, tu te retrouves avec ça, t'es pas perdu,
mais j'aurais pu avoir n'importe quel autre kit. Ça reste toujours la même logique. C'est un bouton play, un bouton cue, les molettes, les roulettes, en fait, pour ajuster la vitesse, faire un peu de scratch. C'est numérique, c'est limité, mais quand même, ça permet d'en faire.
Ouais.
Un crossfader pour passer d'une platine à l'autre.
Mm-hmm.
Puis, c'est ça, c'est vraiment basique. Ce qui est fun, c'est qu'il permet aussi d'utiliser votre carte de son pour monitorer la prochaine chanson que vous voulez faire jouer. Fait que ça, mettons, sur ma platine A, je fais jouer une colombe de Céline. Premièrement, amène-moi à l'asile. Mais deuxièmement...
T'es dans mes cordes.
Oui, non, mais c'est toi qu'on va amener à l'asile. Non, mais c'est ça. Mettons, par exemple, je fais jouer une pièce A sur le deck A. Mm-hmm. Ben, pendant que celle-là joue, je peux juste transférer mon écoute, pas la sortie sonore, mais mon écoute dans mes écouteurs sur la pièce B. Fait que je peux la préparer.
Est-ce que c'était quelque chose que tu trouvais moins positif quand tu l'as eu?
Donc, plus négatif. non, mais en fait, c'est que ça, c'est limité, mais ça permet quand même de le faire. Mais si j'avais un gros contrat à faire, première des choses, je n'amènerais probablement pas ça.
Ouais.
Mais pour mon plaisir personnel, je fais des choses comme ça. Mais
est-ce aussi, que c'est la même
plateforme pour faire du mixage?
Pour vrai, oui, c'est ça. Ben, ça me permet de pratiquer mes c'est-à-dire,
les enchaînements.
C'est ça, mes enchaînements. Tabarouette, Laurent, une chance que tu es là.
En plus, vocabulaire cette semaine.
Mais t'as de la compétition forte avec Alexandra qui est pas mal.
Alexandra!
Alexandra Jarvet. Mais... mais non, c'est ça. Oh, j'ai cogné ce micro. On le fera pas. Mais c'est ça, exactement. Si je veux pratiquer quelle chanson va bien avec quelle chanson, si je veux juste me faire de la musique comme ça.
Ouais, t'as pas le même confort d'utilisation que sur une grosse.
En fait, non, c'est ça. C'est... Mais
c'est beaucoup plus petit.
Mais en fait, ça a été fait vraiment pour être transporté avec un laptop. On parlait de grandeur de grosseur d'objet tantôt avec Jean-François.
Oui.
Non, mais sa PS Vita était plus grosse que l'écran de la PS Vita était aussi grosse que l'iPhone au complet. Mm-hmm. Ben, si vous voulez une référence, collez deux PS Vita, si vous en avez deux, une à côté de l'autre, puis ça donne à peu près la grosseur et le poids de l'objet comme tel. Mm-hmm. Mais non, mais c'est ça. C'est...
Mais est-ce que pour toi, ben, d'après toi, quelqu'un qui veut commencer à être DJ,
je pense que c'est l'idéal pour vrai. Parce que ça te permet d'apprendre les contrôles de base.
Les rudiments de base.
Les rudiments. C'est quoi c'est un concours de vocabulaire?
Non, mais moi, je travaille à la télé, par exemple.
En tout cas.
À TV, il faut plus mieux parler.
Ouf.
Un petit peu plus mieux.
Faut que tu sailles plus meilleur.
Je sais que c'est un cadeau, mais le prix.
Jean Charest sort de cette émission.
Ben pour vrai, le je savais le prix à l'avance parce que je voulais me l'acheter. C'est environ 60$.
Oh, c'est pas cher.
C'est disponible un peu
plus. Juste 60$.
Oui, pour vrai.
Ça m'étonne. C'est vraiment cher pour faire une plateforme de mixage.
Ça vient avec l'édition complète de Virtual DJ personnalisée.
Tout ce qu'il faut.
Est-ce que c'est
juste le fil USB?
Pardon? Ça vient de Chine?
Non, ça vient de Future Shop.
Ben non, oui, mais en fait, tout est fait en
c'est probablement Made in China, ça doit être écrit derrière là. Mais c'est, je vous avertis tout de suite, c'est comme je vous dis, c'est pas quelque chose que vous allez traîner dans un gros party puis vous mettre à piocher dessus en vrai fou puis faire le gros spectacle. C'est vraiment de base, c'est du plastique, c'est du plastique, mais c'est résistant, c'est rétroéclairé, les boutons de contrôle sont rétroéclairés, fait que c'est quand même.
Ça je te rappelle quand tu l'as eu, tu étais surpris quand même de la fluidité, genre
oui,
des roulettes puis ainsi de suite.
C'est ça, c'est vrai. La sensibilité des roulettes est vraiment quasi parfaite.
C'est
plus petit, hein? Tout est plus petit. Parce que moi, je suis habitué avec mon gros contrôleur. Pour vous donner un exemple, les roulettes là-dessus sont un peu plus petites que la circonférence d'une canette de cœur, parce que j'en ai une devant moi. Puis les molettes sur mon Newmark, bon, ben parce que j'en ai une devant moi, sont à peu près la même circonférence qu'une canne de Pringles.
Ouais,
hey,
ça laisse pas une super bonne référence.
Non, en tout cas, sur le DJ To Go, sont petits, puis sur l'autre, c'est gros.
C'est bien.
C'est pas bien.
C'est mieux.
Hein, c'est mieux. C'est plus mieux.
Mais même les boutons, tu sais, tout est quand même de qualité. T'sais, pour un produit
non,
de 60$, c'est impressionnant.
Non, pour vrai, c'est ça. Ça vient. Puis, il y a un manuel, évidemment, sur le CD, en plus d'avoir le logiciel, il y a des manuels d'utilisation en PDF. Puis aussi des liens vers des tutoriels, des didacticiels, tiens le vocabulaire. Mmh. Didacticiels sur YouTube.
On fait ça dans le tableau de bord, le vocabulaire.
Hein? C'est dans la vache. C'est ça, fait que il vous amène vers des vidéos YouTube qui montrent. Qui vous montre. Comment si vous connaissez vraiment rien, ben il vous montre vraiment comment vous en servir, comment l'optimiser aussi. Puis c'est vraiment fait, comme je vous dis, pour traîner avec un laptop, c'est à peu près la même, dépendamment de la largeur de votre ordinateur portable, c'est à peu près la même longueur.
Puis, c'est bon pour un petit
c'est pas lourd.
Pour une petite soirée entre amis,
les...
tu
veux
mixer, c'est parfait. C'est parfait. Ça répond super bien.
T'as toujours les enceintes à traîner, par contre.
Oui, ben il faut quand même que tu aies ton kit avec toi, ordinateur.
En fait, tout ce que tu as... En fait,
c'est que ça t'évite d'avoir à traîner une grosse table de mixage.
C'est ça. Tout ce que tu as besoin, c'est ça, puis ta bibliothèque de musique. Fait que si tu vas chez un ami, amène ton logiciel Virtual DJ que tu peux aussi télécharger sur le site de Newmark en ayant ton numéro de série de DJ To Go. Il t'envoie le logiciel. Fait que si tu es à l'extérieur, tu peux le faire. Tout ce que tu as besoin, c'est vraiment d'un ordinateur qui est capable de rouler Virtual DJ, qui est vraiment pas un logiciel demandant en mémoire vive ou en ressources système. Ton DJ To Go, le fil USB, évidemment. Puis une bibliothèque musicale que tu peux traîner, ça peut être sur une clé USB. Il n'y a pas de latence. Il n'y a aucune latence avec les contrôles, il n'y a pas de lag. Si je pèse sur play, c'est quasi instantané. Il n'y a vraiment pas de différence. Tandis que avant, j'utilisais. Ah, c'est ça l'autre logiciel que je parlais tantôt. Ah non, j'en ai parlé. C'est Traktor. Mm-hmm. Je l'utilisais, mais juste clavier-souris, tu sais, pour. Oh, bon, Lynn a échappé ses dents, fait que sa prononciation n'ira pas bien pour le reste de la soirée. Mais j'utilisais Traktor avec clavier-souris, puis. malgré que c'était directement avec le clavier et la souris, justement, il y avait quand même une latence logicielle. Je cliquais sur play, puis des fois, ça peut prendre une seconde avant de s'embarquer. Fait que,
oh boy,
pour synchroniser
la musique,
ça marche vraiment pas.
Question juste comme ça? Le logiciel Virtual DJ, c'est-tu Virtual DJ?
Oui.
Mac, Windows, les deux?
Les deux. Les deux. Les deux, puis il y a possibilité, sur Mac, je sais pas à quoi ça sert, mais il y a possibilité de mapper les contrôles pour GarageBand, mais je sais pas à quoi ça peut servir vraiment.
Oh, ça peut servir à enregistrer un podcast.
Oui, n'est-ce pas? J'enregistre avec mon DJ to go.
Mais Steve, maintenant que t'es un newbie, là, puis tu fais du DJ,
ouais.
Puis après d'acheter un nouveau kit, comme, je sais pas, 800$.
Ouais, c'est ça.
T'achètes ça, puis tu peux commencer avec ça.
Pour vrai, oui, c'est ça. Tant que, pour vrai, ce que t'as de besoin avant d'avoir un DJ to go, c'est de la musique. Puis aussitôt que tu as ta musique, que tu loads dans ta bibliothèque de Virtual DJ, même pour t'aider, pour commencer, puis c'est idéal vraiment pour commencer, le logiciel, dès que tu rentres une pièce dedans, va te dire la vitesse de la
tune,
le tempo. Ouais, ouais. Fait que si admettons, tu dis, bon, ben, je vais commencer à mixer, bon, ben, j'ai 5 tunes qui sont en 128 BPM, qui est à peu près le tempo normal pour du house, techno. Ouais. Ben, voilà, ça te les montre. Fait que déjà, tu rajoutes tes yeux pour mixer, fait que ça t'aide bien plus que juste d'écouter puis de voir, ah, je pense que j'ai une autre chanson qui est à telle vitesse, mm-hmm. Fait que moi, personnellement, je trouve que c'est le fun, mais je m'en sers pas de ça parce que
je suis tellement expérimenté.
Non, mais tu sais,
tu connais bien ta bibliothèque.
Ben, pour vrai, ma bibliothèque puis mon matériel aussi, je sais que même si une chanson est plus rapide que l'autre, il y a toujours moyen d'y aller avec la correction de pitch, la correction de vitesse, de la tune sans que ça la change trop. Fait que je peux les enchaîner. Mais ça, c'est pour le débutant, c'est toutes des habitudes qui vont venir naturellement. C'est ce qui est le plus mélangeant, évidemment, c'est d'écouter une tune pendant qu'il y en a un autre qui joue, puis d'essayer de les synchroniser. Des fois, c'est pas évident.
Ouais, ça, c'est l'expérience, par exemple.
Mais c'est ça.
Apprendre à le faire.
Mais c'est ça. Puis c'est en le faisant que ça vient. Fait que pour 60$, c'est ultra portable. Pas
bon
besoin de.
Petit kit de l'idée.
C'est alimenté par l'USB. Fait que
C'est sérieux,
j'en veux
juste pour m'amuser.
Je te dis, c'est disponible.
Juste pour m'amuser, c'est vraiment...
Il y en a partout. Puis là, mais ça, c'est le plus portable des contrôleurs MIDI. Il y en a toute une gamme. Il y a plusieurs gammes.
Ça rentre dans le sac à laptop.
Ben, je te dis, il y en a une que j'aimerais avoir éventuellement, qui est je pense que c'est la Hercules MK2. En tout cas, quelque chose comme ça. Qui est un peu plus, qui en fait est un kit complet avec des equalizers dessus, avec des effets.
C'est pas
énorme, c'est à peu près la grosseur d'un portable. Fait quelqu'un qui a un gros sac à portable peut encore glisser ça là-dedans. Puis ça se vend à 175$. Fait que c'est quand même abordable. Avant d'aller t'acheter un kit à, comme tu dis, à 500-600$, là ça prend le mixeur, ça prend les fils, puis là ça prend l'alimentation. C'est toutes des choses auxquelles faut que tu penses quand tu t'en vas justement sur un contrat. Ben ça, c'est alimenté par USB, c'est super facile à comprendre. Ils n'ont pas rajouté un paquet d'affaires que tu n'as pas de besoin dessus. Fait que c'est
vraiment comme un double deck standard, CD, MP3.
C'est vraiment ça. Puis en plus, à la limite, une fois que tu es branché et que tu as démarré ton logiciel, tu n'as même plus besoin de souris. Mm. Il y a un bouton Browse ici là, qui te permet vraiment de te promener dans ta bibliothèque. Fait que avec une molette, bon ben je m'en vais sur tel tune de LMFAO, je pèse sur A, ça l'envoie dans le deck A.
Sexy,
work out! Fait que c'est ça. Puis là, tu t'envoies l'autre dans le B. Sans souris, fait que c'est vraiment sans souris, sans souci. Non. Mais puis c'est ça, ça répond super bien. Fait que je vous conseille de l'essayer. Tu sais, à 60$, avant si tu penses que tu as le goût de faire ça, de faire du DJing, avant d'investir des prix de fou, essaye avec ça. Si tu aimes ça avec ça, tu vas aimer ça avec n'importe quelle autre interface. Ouais, c'est ça. Puis pour l'écoute, la pré-écoute, ça prend une carte de son à deux canaux pour qu'un canal puisse faire jouer la musique, puis l'autre t'envoie du feedback dans les écouteurs. La plupart des ordinateurs standards, même la plupart des laptops, ils ont des cartes de son comme ça. Fait que c'est vraiment génial. Fait que voilà, c'est le Newmark DJ to go. Je vous conseille de l'essayer. Puis j'ai parlé de Future Shop parce que je les aime bien. Merci Future Shop. Mais c'est disponible aussi dans la plupart des grandes surfaces. C'est du plastique, c'est beau. J'aime ça. Je vais sûrement faire dodo avec ce soir.
Bon, ben moi je vais dormir dans le salon. Merci Steve.
Ben, ça fait plaisir.
La chronique cinéma et télévision vous est présentée par Alexandra Gervais.
Alors, Alexandra, tu vas nous parler de comment vivre sans le câble.
Comment se débarrasser des, des $40 que vous payez par mois.
Et plus.
Que vous donnez au méchant Vidéotron.
Ou Cogeco.
Ben, câble au service de télé, Eric, satellite.
Tout ce qu'on paye mensuellement, qu'on a envie de se débarrasser, c'est
et
très
toi,
facile.
Ça, ma blonde. Ça combien de temps?
Oh!
tu la payes?
T'avais juste à pas lui faire deux enfants.
Je comprends mieux.
Hey, on vient de scraper, excuse.
Ouais, qu'est-ce que tu veux?
Cette tech est scrap. Note pour l'éditeur, Dilly.
Oui, alors Alex, c'est ça. Alors, depuis combien de temps tu fais ça, en fait?
Ça fait 2 ans. J'avais Vidéotron, puis j'ai complètement viré. J'avais pourtant le truc HD et tout, terminal HD, puis je l'ai revendu. Ça s'est revendu en 2 jours.
Comment chercher ça.
Et puis, j'ai mis une antenne, TERC ou TURC, je ne sais pas comment on dit. On dit TERC. amplifié.
Une antenne hertzienne.
Ouais, mais c'est juste une antenne là. C'est honnêtement c'est laid. Mais
c'est laid, c'est gros comment on parle de.
Non, mais
c'est
elle est pas très grand. Hein.
Ça fait 30 cm de long, un peu 20 cm de large et c'est tout en triangle comme ça avec des espèces de lattes.
Ok.
Une antenne IKEA.
C'est une antenne IKEA, ouais, un peu. En plus, faut la monter un petit peu. En tout cas, elle s'est amplifiée. Et tu branches ça à la télé, bêtement. Là, tu visses le petit truc.
Dans
et
le câble. Dans le
câble.
Il faut une télé qui a un récepteur numérique, un synthétiseur numérique.
ATSC.
Pas toutes les nouvelles télé, pas toutes les téléphones, mais la plupart des
récentes. La plupart des nouvelles.
Non, mais je précise parce qu'il y en a qui ont un récepteur Vidéotron numérique, mais qui n'ont pas la télé qui serait capable de synthétiser.
Si t'as une télé cathodique, là, essaye même pas.
Mm-hmm. Ben, il y en a certaines, mais t'as vraiment dans les derniers
modèles.
Non,
t'as plus rien. Je pense que t'as plus que le canal Savoir qui propose encore du hertzien, mais... Si ça t'intéresse,
t'en veux.
Ben, seulement hertzien classique, oui, mais il y a quand même beaucoup de télé qui font du hertzien classique.
Puis maintenant, ils l'ont enlevé. Ils ont coupé.
Mm-hmm. Oh, depuis septembre?
C'était quand? Au août même.
Au mois d'août de cet été, c'était la dernière transition, sauf exception. Il y a présentement, je pense, 2 exceptions qui ont encore un an dans des régions, pas autour de la métropole, là, mais plus en région, il y a des stations satellites associé à Radio-Canada, TVA, bon. Et certaines de celles-ci ont eu une extension.
Ah, fait que le white space, ok, correct.
Il reste encore un peu de temps, mais à part ça, c'est fini.
Là. Ouais, pendant comme un an, il y avait les doubles. Tu sais, t'avais soit le hertzien, par exemple, CTV a été longtemps comme ça, t'avais le hertzien, ou sinon le numérique.
Oui, puis pendant cette période, tous ceux qui diffusaient en numérique n'étaient pas à pleine puissance parce qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur espace sur la fameuse tour de Radio-Canada sur le Mont-Royal, qui maintenant diffuse les nouveaux signaux. Donc, ce n'était pas possible avant de capter maintenant ce dé, parce que là, on est en puissance.
Ça. Tant qu'on parle de puissance, là, tu vois, tu compares à, par exemple, Vidéotron que moi j'avais avant, je peux vraiment comparer. L'image est magnifique sur le signal que tu peux
aussi
avoir.
Aussi beau que, maintenant, tu vois, chez un de tes amis, c'est la même chose.
Elle est meilleure.
C'est plus beau.
Meilleure?
Ouais.
C'est pas aussi beau.
C'est l'équivalent d'un Blu-ray, quoi. C'est vraiment très beau.
Le problème, c'est que c'est les câbles autres distributeurs compressent... Pas les bons. Oui, les câbles autres distributeurs compressent trop l'image pour économiser sur leur propre bande passante, pour essayer de mettre plus de canaux vers vous. Et ça coupe beaucoup dans la qualité. En diffusion hertzienne, la plupart des diffuseurs peuvent y aller à la quasi-maximum de la qualité et c'est assez phénoménal.
C'est très, très bon.
De ce que j'ai vu sur ma télé, il y a certains diffuseurs qui envoient carrément à 1080p.
La majorité, même.
Oui, tous.
Le détail, c'est que sur Vidéotron, le HD, sur le décodeur de ma grand-mère, c'est pas du Full HD, c'est du 1080i.
Mm. Oui.
C'est du 1080, c'est 1080 interlaced, donc pratiquement du 540p.
Ben, 720p, en fait.
Non, c'est du 1080i, c'est 540 un scan, 540 l'autre scan. C'est la moitié-moitié.
Ok.
Mm. En pratique, c'est la moitié.
Ça donne une meilleure définition, mais moins bon dans les mouvements.
Okay.
C'est une définition optimale.
Le seul problème de ce système, c'est que quand tu captes un canal et que tu l'as pas vraiment à 100%, quand il y a problème avec la température, tu sais, un orage, un truc comme ça,
ça
bah, En hertzien, ça continuait à jouer. Tu avais de la neige, mais tu l'avais moins belle, mais tu l'avais en numérique. En général, tu n'as plus rien.
C'est 1 ou 0.
Tu as des petits carrés de temps en temps où tu n'as plus rien.
C'est ça.
Mais c'est vraiment le problème. Mais si tu as un bon signal, ça marche super bien, franchement.
Ouais,
c'est vraiment bon.
En fait,
moi, de chez moi, j'habite Montréal, et puis avec des vieilles oreilles de lapin que j'ai recyclées d'une autre télé, je capte Radio-Canada, CBC, TVA, CFCF, Global et Télé-Québec. Juste avec truc à 1$ sur la...
Moi, j'ai convaincu mes parents d'aller au HD Hertzien l'été passé. On a viré Vidéotron, puis là, la seule affaire qu'on a de Vidéotron, c'est l'Internet.
Puis tu as Global qui diffuse beaucoup de programmes de NBC aussi.
Fait que ça te permet d'avoir NBC aussi. Moi, j'ai les canaux américains, tous à part ABC.
ABC.
Et UPA.
Parce que Montréal, mais ça c'est bon pour ceux qui sont près de Montréal sur la rive sud, parce que avec une antenne amplifiée comme celle que tu suggères, on est capable d'aller chercher les stations du Vermont et de New York, donc on peut couvrir la majorité des réseaux américains.
New York,
mais des gens qui sont plus loin pourront pas.
Non, et puis t'as le problème du Mont-Royal aussi. J'ai un ami qui est à Outremont, il a rien, il a juste le canal Savoir. Pas de chance.
Il y a du
monde qui adore ça, le canal Savoir.
Sinon, si justement t'as essayé les oreilles de lapin, t'arrives à rien capter, tu peux toujours avoir tout ce que tu veux en ligne.
Ok.
Wow. J'ai relevé.
Il y en a beaucoup. Il
y en a beaucoup maintenant. Ouais,
c'est ça.
T'as tout un TV.
Il y a plusieurs diffuseurs qui ont commencé à mettre des émissions comme Global.
Le lendemain. T'as toutes tes émissions le lendemain, là, c'est la même chose.
Mais pendant un bout, il y a des places qu'on ne pouvait pas les avoir, mais maintenant, justement, Radio-Canada, c'était long avant que ça soit diffusé pendant un bout, mais maintenant, c'est vraiment rendu le lendemain.
Ben, il y a sûrement une période d'adaptation.
Oui, la demande aussi.
Moi, j'ai référencé tout.tv, téléquébec.tv, tv5video.ca, vtélé.ca, ctv.ca, global. C'est ça, il y en a quand même pas mal.
CFCF. Qui ont commencé à mettre des émissions sur leur site.
J'ai pas vu ça.
Ouais, mais là, c'est ça. Par exemple, pour l'Internet, si, admettons, tu veux de la télé américaine, c'est régional. La plupart des vidéos
c'est
de
NBC. Comme Hulu, rien à faire.
À moins que
tu contrôles. Même avec des contrôleurs là,
je suis capable d'aller sur Hulu et sur NBC avec certaines.
Contournement totalement légaux.
Oui, absolument. Mais c'est ça limite un peu, mais encore là, il y a tellement de choses qui sont rendues disponibles sur Internet.
Mais oui, et puis si tu veux regarder des séries, des choses comme ça, tu veux regarder la préférée de Lynn, Dr. House,
yes.
Pas de problème, tu vas sur Global.
Dr. House, c'est pas ma préférée.
Je sais.
Moi, j'ai dit yes parce que j'étais sûre qu'elle...
Tu veux The Voice?
Oui, The Voice.
CTV.ca, ils diffusent The Voice.
Non.
Big Bang Theory.
Big Bang Theory sur CTV.ca le lendemain aussi. Donc, c'est tout gratuit. T'as moins de publicité.
Donc,
c'est coupé 2-3 fois.
Au lieu de 2 minutes 4 fois, c'est plus comme 30 secondes par interruption.
Ouais.
Mais comment qu'ils gèrent ça?
T'as des petits... Tu regardes sur ta ligne là, de téléchargement, t'as des petits traits à des moments. C'est là que ça va couper pour la pub.
Ah, okay.
T'as comme c'est pratiquement les mêmes segments que l'émission qui a été diffusée à la télévision.
Mais c'est moins long.
Mais c'est ça, l'espace publicitaire est vraiment moins long. Souvent, ça va être une publicité de 30 secondes, des fois deux de 15.
Lorsqu'on
mais ça passe super vite.
Tu fais contrôle table, tu passes à côté et puis.
Ils vont rajouter.
Probablement.
Ça va peut-être revenir à 2 minutes.
Probablement.
Oui et non, parce que techniquement, l'infrastructure requise pour envoyer l'émission à la personne dans son salon, entre guillemets. Elle est moins demandante parce que là, au
ça
lieu d'envoyer.
Ça n'a rien à voir avec la demande, c'est une question de revenus.
Oui, je
ben,
pense que
c'est
revenus, oui. Pourquoi il y a 2 minutes de publicité à la télé? C'est parce qu'après 2 minutes, les gens décrochent.
Oui.
Pourquoi il n'y en a pas moins? Parce qu'ils peuvent mettre 2 minutes.
Ah!
Ben oui.
Ben oui, c'est
une
bombe. Est-ce que tu aimerais avoir moins de revenus? Ah oui, j'aimerais vraiment ça. Moi, une compagnie qui fait de l'argent, ça m'intéresse.
Ben, c'est pas ça. D'un autre côté, il faut payer le câble distributeur, l'infrastructure entre...
Non, il faut payer les employés qui font les émissions, les artistes qui font les émissions.
Oui, mais en plus de ça, faut que tu payes le transfert entre la station et le câble distributeur, puis que le câble distributeur l'envoie.
C'est rien, ça, c'est de l'infrastructure. Ça coûte bien plus cher produire un épisode d'une série avec tous les comédiens, les lieux de tournage, les équipements,
aussi,
les équipes techniques, les auteurs, que de simplement payer de la bande passante vers Vidéotron. C'est une bagatelle, c'est comme l'électricité dans Baptiste.
Oui. C'est pas comme ça qu'ils font leur profit, le plus gros de leur profit, c'est ça.
Sinon, si ça vous plaît toujours pas, iTunes.
Ouais,
c'est vrai.
Bon, acheter beaucoup de films, louer des films, tu peux les garder, soit, je crois que c'est 48 ou 72 heures, je ne sais plus.
Netflix.
Netflix, 8 dollars par mois. Le catalogue commence à grossir un petit peu au Canada, même si c'est encore vraiment pas l'américain, mais ça commence à être correct.
Il y a beaucoup plus d'intérêt qu'il y en avait au Canada, justement, pour Netflix. Il y a tellement plusieurs plateformes maintenant qui le rendent possible. Tu sais, c'est pas juste.
Ouais, tu peux l'avoir sur la PS3 ou
sur
la
Xbox. Ça, je m'en allais dire. Unlimited, je pense, ça s'appelle sur la PS3.
Ouais, mais si je peux ajouter que ce que je trouve poche, là, c'est que quand tu loues un film, ça download. Là, tu l'as pas live là. Maintenant, j'ai loué.
C'est pas du streaming. Ouais.
Ça, j'ai loué de Kung Fu Panda 2. Après, j'ai dit, je vais l'écouter. Non, je dois attendre comme 2 heures.
Et sur iTunes, c'est pareil. Moi, la première fois que j'ai loué un film sur iTunes, je pensais vraiment que ça allait streamer. Direct. Et puis non, il faut le télécharger.
Mais avant Netflix, il y avait un service vidéo.
Ouais.
En tout cas, je sais que je m'éloigne un peu du sujet, mais avant Netflix, il y avait un service vidéo sur la PS3 que, mettons, tu te loues un film sur le PlayStation Store. C'est que ça démarrait, mais ça streamait, ça downloadait en même temps que tu le regardais. Et il y avait,
ça cochait-tu?
Ben, il y avait de la mise en mémoire tampon, comme une vidéo YouTube ou n'importe quoi que tu regardes, qui était efficace. Fait que ça faisait que ton film démarrait quand il y avait assez de données de downloader, puis c'était fluide tout le long.
Ça continuait à downloader tout le long que tu l'as.
Ouais, c'est ça, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Je pense que Netflix a vraiment pris le dessus.
Pour mettre un nom sur la chose, c'est le service Criocity de Sony.
Ah, ok.
Qui ont eu des problèmes d'infrastructure monstres. Okay. Rappelez-vous.
C'est Netflix, dans le fond, qui a embarqué par-dessus ça.
Ben, plus ou moins Netflix. Ils
l'ont remplacé, dans le sens.
Pas vraiment. Netflix était sur la PS3 depuis un bout, comme application différente. En plus de Criocity. Sauf que Sony ont enlevé un petit peu le produit parce qu'il y a quelques mois, ils se sont fait un piratage monstre par Anonymous.
Ouais.
Ça a fait mal. Ça l'a fait.
Ouais, c'est ça. Peut-être qu'ils ont décidé de plus investir dans ce côté-là. Puis...
ou d'investir plus dans la sécurité avant de le relancer.
C'est ça.
Si vous ne voulez pas regarder tout ce contenu-là directement sur un laptop ou sur un ordinateur, il y a plusieurs options. La première, c'est Boxy. Donc ça, on branche directement sur la TV. Je pense que Koi, c'est ce qu'il utilise.
Ouais, moi aussi, j'en ai.
Ça permet de streamer. C'est relié à pas mal de plateformes différentes.
Ce qui est intéressant, c'est que la BoxyBox intègre déjà tous les sites que tu as nommés tantôt de visionnement dans le navigateur des épisodes et des émissions. Donc, j'ai même pas besoin de savoir où aller chercher le dernier épisode, par exemple, de Dr. House.
Ouais.
J'ai juste allé dans la liste, House, nouvel épisode, puis... soudainement, je vois que je suis sur le site de, par exemple, Global, qui va me présenter cet épisode-là.
Donc,
l'intégration est bien faite, mais vu que c'est des players en flash, il y a toujours des petites lacunes. Des fois, tu fais pause, ça marche pas, tu veux reculer, là, l'image est maximisée, tu essaies de reculer. L'interface n'est pas parfaite.
Ton plugin peut planter aussi.
Oui, non, mais moi, il n'a jamais planté. Mais je dirais que les problèmes de navigation, c'est difficile avec les épisodes qui sont présentés avec les sites web des diffuseurs.
Ouais.
Okay. Est-ce que peut-être encore une fois c'est plus adapté pour le marché américain et puis c'est encore parce que là tu arrives sur Global, peut-être que si tu étais
sur
c'est
parce qu'ils designent ça pour un navigateur sur ordinateur. La Boxy, c'est un peu un contournement que BoxyBox fait en ayant un navigateur web qui va sur la page, qui prend le player, qui le met full screen puis mais tu sais, ils n'ont pas designé ça pour ça à l'époque, au moins
sinon Roku, c'est le même principe que la Boxy, même chose. Je pense que c'est à peu près le même tarif aussi. Apple TV, on en a parlé tout à l'heure. C'est là l'avantage, c'est que c'est 99$. Le désavantage, c'est que c'est surtout iTunes. Donc après, c'est un choix. Moi, l'option que j'utilise personnellement, c'est un ordinateur plugé directement en HDMI sur la télévision. Avec un clavier, une souris sans fil.
Ça va
dans un petit plateau, ça va super bien. Juste zoomer quand on a besoin pour agrandir
pour
le texte, parce que des fois, c'est...
Mais avec Windows 7, il y a une fonction qui permet de mettre tout le texte de base à quelque chose comme 125%. J'ai trouvé que c'était idéal pour une télé à distance de sofa.
En fait, faire un parallèle, sur l'ordinateur, vous pouvez aussi avoir un logiciel appelé XBMC, qui est en gros la base technologique de la BoxyBox.
Oui, puis la nouvelle version qui vient de sortir est excellente.
J'adore. Plex, qui est aussi un autre dérivé de XBMC. Le cœur de XBMC, c'est juste un centre média. Au début, c'était pour rapide, c'était sur la Xbox. Puis après ça, ils sont revenus sur Windows, Mac OS X, Linux, tout. Puis en gros, vous pouvez mettre des plugins de contenu, dont par exemple Canada On Demand, qui est un agrégateur de contenu diffusé en ligne. Par exemple, j'ai des liens pour Global et Tout.tv à même ce greffon-là. XBMC puis ce greffon-là, c'est génial.
Au niveau des commandes aussi, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça, avoir un clavier et une souris dans le milieu du salon, je peux le comprendre. Il y a pas mal d'options aussi. Il y a la télécommande de Logitech Mini Controller.
Okay.
Qui, si vous allez voir ça sur le site, c'est vraiment le fun. C'est comme la taille d'un iPhone, je vais dire. Bah, vraiment la taille de ta DS, là, avec un petit clavier sur le bas et une petite roulette qui fait la souris,
qui remplace la souris.
Et t'as le clavier, t'as tout ce que tu veux. Et puis ça par contre c'est uniquement Windows, donc si tu plugs un Mac ça marchera pas, donc ça c'est Logitech Mini Controller. Sinon ce que tu peux faire, c'est avec ton iPhone en Bluetooth, tu prends l'app Mobile Mouse et puis tu navigues directement sur ta TV avec ton iPhone. C'est vraiment le fun.
L'application est gratuite?
Non, l'application je crois qu'elle est payante. J'ai payé il y a longtemps, je peux plus dire le prix, même. Mais
je pense
que j'avais eu en promotion en plus. J'avais pas payé très cher. Donc moi, mon setup, pour vous dire, télévision HD, l'antenne TUC amplifiée, un Mac Mini, c'est l'idéal parce que c'est tout petit, c'est discret, ça fait pas de bruit, c'est ça fait des économies d'énergie, etc., tout ce qu'on veut. Clavier souris sans fil et comme DVR, j'utilise le ITV Hybrid. Que je branche sur l'antenne, donc sur l'ordinateur, sur l'antenne, et ça permet de programmer les émissions. Tu peux changer la vidéo, tu peux passer en AVI, tu peux passer en MPEG, tout ce que tu veux. Après, tu peux jouer avec tes vidéos, tu peux les monter, tu peux enlever toutes les pubs, garder ça sur un disque dur externe, tout, ça marche super bien. Ouais, c'est vraiment excellent.
Je vais me rapprocher du micro. J'ai fait la critique, moi, du ITV HD. Je connais pas la différence avec le hybride. Fait qu'il faudrait, j'aimerais bien venir chez toi, l'essayer, le hybride, voir à quel point
c'est différent. C'est vraiment différent parce que le tien, c'est une petite boîte. Le hybride, ça ressemble plus à une clé USB. Tu le branches en USB sur l'ordinateur. L'autre côté, c'est le petit goupillon là, que tu branches à l'antenne. Et puis... l'antenne directement.
C'est un synthonisateur.
Oui,
c'est
exactement.
Vraiment ça, c'est un
synthonisateur, ouais. T'as le... Alors, je sais pas comment ça se prononce...
Hopage?
Oui! Pour Windows, qui fonctionne WinTV vraiment de la même façon avec... avec Windows Media Center.
Oui, puis ça fonctionne de façon plutôt boiteuse, je dois l'admettre.
Oui, j'ai essayé.
J'ai vu plusieurs essais et c'est bon.
Le logiciel du hybrid, c'est pratique à utiliser. Puis, t'as le programme... pour un an, là, t'es abonné, la première année est gratuite, puis après, tu peux reprendre un an, et puis t'as toute la programmation en fonction d'où t'habites, de toutes les émissions, puis tu peux les programmer, tu peux même les programmer hebdomadairement, enfin, tout ce que tu veux, c'est super pratique.
Ah, c'est pour, pour le Hopage, est-ce que tu parles de la carte, de cet organisateur USB ou carte d'ordi?
USB.
Ok, c'est les synthonisateurs dans les ordi, normalement, ils sont un petit peu plus puissants. Ils ont quelques composantes qui font que ça utilise moins l'ordinateur, justement pour faire la compression. Normalement, ces synthonisateurs-là sont corrects. Dans le cas des synthonisateurs USB, par exemple le WinTV HVR950, si ma mémoire est bonne, c'est en gros, ils donnent juste le signal dans l'ordinateur, ce qui fait que si tu utilises Windows Media Center, ton ordi va ramer au maximum.
Ça dépend vraiment de la performance de l'ordinateur. Peut-être
moi, c'est un Mac Mini qui a quoi, 2 ans.
C'est ça, il est probablement...
Il lag pas du tout, je t'assure, il lag pas. Avec le ITV.
Avec ITV, justement. WinTV, HVR, d'habitude, les pilotes de Hopage, ils sont un petit peu moins fiables. Fait que pour ce qui est de l'enregistrement, c'est un petit peu moins bon.
Dernier point que je voulais mentionner sur la télécommande de Logitech, hein, elle a été renommée Dinovo Mini et elle est 200$.
Ça contrôle tout mon toaster.
Presque. En fait, c'est un clavier USB complet.
Ouais, c'est ça.
J'en ai une.
Je sais pas. Finalement, clavier, souris sans fil.
Mais je l'ai déjà vu en promotion. Donc, une bonne promotion, tu peux peut-être l'avoir.
Tu peux toujours le voler.
On reste legit.
Lenovo, ils en font une clavier, souris. Là.
c'est comme 40$. C'est comme une manette un peu, pour au milieu une boule. Là.
Sur... Ben, c'est exactement la même chose.
Il n'y a pas d'écran là-dessus, tu n'as pas besoin d'un petit écran LCD ou quoi que ce soit.
Non, c'est ça.
Ça doit être programmable avec pas mal tout. Là.
Mais ce qui est fou, c'est que quand j'écoute toutes les options qu'on a de télé, c'est que je me rends compte qu'on est niaiseux de payer pour.
T'sais? C'était exactement mon point.
Il y en a tellement qu'il faut être débrouillard.
Il y a pas Youpa.
Il y a pas Youpa.
Non, mais il reste beaucoup de chaînes spécialisées, oui. En particulier pour les sports, les événements.
Ouais, mais si tu peux réduire de beaucoup de canaux ton forfait que tu payes, déjà, tu économises.
Oui, c'est vrai.
Puis si tu peux, justement, il y a aussi RDS, ils diffusent en ligne, en arrière d'un paywall. Mais justement, est-ce que tu vas payer 45$ pour le gros forfait de Vidéotron pour écouter 5 chaînes sur 50?
Non, mais mettons pour les fans, parce que je sais que dans les auditeurs des Ligues de quoi, il y a quand même du monde qui écoute le hockey.
Allô? C'est ça. Fait qu'ils peuvent, ils peuvent arriver sur RDS, s'abonner justement au feed RDS en ligne.
Ouais. Fait que là, moins cher que
c'est ça. Il va coûter 2$ par mois pour avoir toutes les games de hockey. En standard et haute définition, si la bande passante le permet.
Ouais.
Fait que 3$ par mois, c'est au lieu de 50$ pour 50 chaînes que t'en as pas besoin.
Si son ordi est branché sur la télé, ça fait son 1080.
Puis même, pour revenir sur les enfants, à Montréal, la bibliothèque, là, t'as un étage entier de DVD.
Alex.
Déménage à Montréal.
C'est ça que j'ai dit.
On est dans notre salon, Lynn, puis fais juste faire la moyenne des gens qui habitent à Saint-Zotique. On est deux.
On va faire les bois.
Honnêtement, là, tout le sous-sol de la bibliothèque, c'est des DVD, c'est tout ce que tu veux pour les enfants.
Mais même ici, à la bibliothèque municipale, là, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à des canaux spécialisés comme ça. Il loue des films, il loue des jeux.
Si tu utilises la télévision comme gardienne, je te juge.
Eh oui, c'est ça.
Non, puis tu sais, un enfant, il s'en fout d'avoir les dernières nouveautés ou les informations. Ou, tout ce qu'il veut, c'est des films, des dessins. Ouais.
Puis des bonbons.
Oh boy.
Merci, Alex.
C'est tout.
C'était super intéressant. Et maintenant, boycottons Vidéotron.
Yeah. Je fais ça depuis des années.
C'est une joke. Pierre Carl, c'est une joke. Je t'aime, Julie, je t'aime. Bye. Alors maintenant, allons-y avec la section.
Les fruits.
Les fruits. Nos fruits préférés à tous, les oranges et les citrons du mois. Alors allons-y, on va commencer ça avec... Qui a le goût de commencer, tiens?
Mark. Je vais y aller.
Ah, Jean-François?
Ouais.
Why not?
J'y vais avec mon orange.
Quelle est-elle?
Je la donne à la PS Vita parce que c'est vraiment... OK, je ne suis pas un vendu, OK? Mais c'est vraiment une machine performante et malheureusement, comme on dit souvent que c'est les jeux qui font la console.
Oui.
J'espère que les distributeurs de jeux, les compagnies de jeux vont se forcer parce qu'elle vaut vraiment la peine. Il y a du potentiel.
Puis elle est
belle. Puis elle est belle. Le message subliminal, c'est quand t'as fait?
C'est le 14 septembre.
Oh. Moi, c'est le 19 septembre.
Je vous envoie mes adresses pour le shipping.
PayPal.
On est connectés.
Et mon citron. Mais moi, je vais le mettre à Apple. OK? Mm. C'est rare. Parce que avec leur nouveau iPad, leur prix de leur ancien iPad qui diminue, mais pas énormément. Moi, ouais, fait que là, dans le fond, là, moi, je dirais que les nouveaux produits, quand ils arrivent sur le marché, devraient avoir une drop assez grosse pour leur ancien produit pour qu'on s'y intéresse.
Ben, faut qu'il y ait une grosse différence entre
les deux. Oui, voilà, d'un côté, on critique qu'il n'y a pas assez de mise à jour, puis d'un autre, on dit le prix n'est pas assez différent, mais ça va ensemble.
Fait que les gens vont faire pareil.
Si tu achètes presque la même machine, tu as presque le même prix.
C'est ça.
Ouais, mais on s'entend.
Ah!
C'est vrai.
La vérité sort du sac.
Ben.
Mais c'est un bon citron.
C'est un bon citron.
Il est
mais là, tu sais, c'est pas juste Apple, là, ça peut être n'importe quelle autre compagnie, là, tu sais, c'est comme...
Ça peut être quoi de nouveau, l'autre devrait baisser.
Pas juste de 100 pièces. Et
voilà. Merci, Jean-François. Ben. Steve?
Quoi? OK. Orange et citron. Je vais commencer avec le négatif. Évidemment, mon citron, c'est comme rendu une tradition, depuis le début qu'on fait le podcast, mon citron... C'est toujours en rapport avec quelque chose qui me...
Qui brise.
Comment je dirais ça? Qui me chie dans les mains. Alors à part mon nouveau-né, il y a aussi...
Tu parles de ton bébé ou de ta rhinoplastie?
Non. mon nouveau bébé qui me chie occasionnellement dans les mains. Il y a autre chose qui m'a lâché cette semaine. Ma PS3. qui a rendu l'âme suite à des abus de fou. Je pense beaucoup de nuits debout ces temps-ci, fait que je pense que de streamer autant de vidéos puis qu'elle soit ouverte aussi longtemps, ça l'a peut-être comme achevé. Elle a quand même 6 ans. Elle avait quand même 6 ans, donc elle a fait son temps. Elle est morte de sa belle mort, comme ils disent. Fait que voilà, ben, PS3, c'est pas autant envers le produit qu'envers la situation.
Les Nintendo, c'est incroyable.
Et là-dessus, merci à Luc Desormeaux de m'avoir démardé aussi vite, de m'en avoir vendu une.
Merci Luc.
Elle est belle dans le salon, je vais y faire attention.
J'ai arrêté de pleurer.
C'est pas vrai, elle pleure tous les jours. Et puis maintenant, mon orange. Ben, mon orange, c'est facile cette fois, c'est... je pourrais pas faire autrement. Ça va à ma blonde Lynn.
Oh!
Oh, attends, un petit peu. Qui m'a donné le plus beau produit au monde. Un miroir pour que je me regarde. Non, c'est pas vrai. Non, Lynn qui a fait un super beau bébé. Le bon. En espérant qu'il ne vire pas sur mon golfel. Mais non, c'est ça, Lynn qui a fait un travail de reine. Carrément. elle a travaillé super fort. On a fait on a accueilli un nouveau bébé, puis Lynn a. En tout cas, je suis fier de ce qu'elle a fait. On a un beau bébé. Je l'aime beaucoup. J'aime Lynn aussi. Donc, mademoiselle qui m'écoute, je ne suis pas disponible. Fait que arrêtez de faire la maison. Lynn est inquiète. Fait que c'est ça. Non, alors, mon orange va à Lynn Boutillette. Ma blonde, je t'aime plus que tout.
Je t'aime.
Okay. Bon, c'est assez. Oh, okay. Assez. Bon, qui c'est qui...
T'es tâche, là.
Qui c'est qui a un agrume, là?
Alex?
Mon orange... mon orange va pour le dernier film des studios Ghibli, Arrietty. Studio Ghibli, pour vous orienter un petit peu, c'est ceux qui ont fait Mon voisin Totoro, Le tombeau des Lucioles, etc. Celui qui est en salle actuellement, c'est Arrietty, qui est absolument magnifique. Des images de fou, vraiment très manga, en 2D.
La majorité sont faites par Miyazaki.
Oui. Un super scénario, c'est pas du Disney, là, c'est complètement différent.
Oui, c'est comme des ombres, genre, c'est en noir.
Non, c'est l'histoire, c'est...
Lynn, t'es saoul.
Une famille de toutes petites personnes qui vit dans les sous-bassements d'une maison de grandes personnes. Et puis, c'est... ils vont chaparder de quoi manger, du sucre et tout ça à chaque fois. Et puis en fait, c'est un petit peu leur histoire. Puis un jour, la fameuse Arrietty se fait voir par le petit garçon de la maison, le grand, qui n'est pas censé la voir. Et puis bon, il y a une histoire qui commence comme ça. Et c'est vraiment très, très beau. C'est pas pour les tout-petits, je dirais, pour votre fille. C'est pas l'idéal, parce que je pense que c'est un peu dur à suivre.
C'est habituellement des dessins animés assez pour adultes, là, la majorité.
Là, c'est moins dramatique. Si vous avez eu Le tombeau des Lucioles, qui est vraiment en période de guerre, tout ça, c'est avec la petite fille qui meurt.
Princesse Mononoke, c'est assez violent.
Ça, j'ai pas aimé Princesse Mononoke, mais... En tout cas, là, c'est pour un enfant d'une petite dizaine d'années, c'est très correct. C'est adorable comme histoire.
Le voyage de Chihiro, c'est assez particulier aussi.
Oui. Mais Totoro.
Totoro.
Mon citron. Mon citron pour la ville de Montréal. Qui déneige très mal les trottoirs, qui déglace très mal les trottoirs et qui m'a fait tomber jeudi.
Oui, c'est la ville de Montréal qui t'a fait tomber.
Exactement. J'ai failli mourir et deux petites vieilles qui se sont arrêtées, qui m'ont pris en pitié.
Qui sont
adoptées. Non,
presque. Ça m'a bien
été. Elle m'a dit qu'à son âge, elle serait cassée la hanche tellement je suis tombée.
J'imagine que t'as pas eu la présence d'esprit de filmer tout ça.
Et je me rappelle par contre avoir vu un tweet passer. Je tombe, première chose que je vérifie. Est-ce que mon iPhone est correct?
Et est-ce qu'il était correct?
Il était correct. La petite vieille était en train de m'essuyer avec son Kleenex pour que je vérifie mon iPhone.
J'aime ça qu'on ne demande pas si ses fesses sont correctes. Son téléphone va bien.
Merci Alex.
Aïe.
Renaud?
Alors donc, mon orange cette semaine... En fait, mon orange est une framboise.
Ah.
Concept. Le Raspberry Pi est un microsystème qui vient d'être annoncé il y a une semaine ou deux à l'enregistrement. En gros, ce système-là est aussi gros qu'à peu près mon portefeuille. inclut un processeur de 700 MHz, architecture ARM, pour ceux qui connaissent. C'est le système, c'est un type de système puce comme les iPhones et les téléphones Android.
Okay.
700 MHz. Une puce qui décode, une puce vidéo, un GPU, qui fait une interface correcte et qui décode du 1080p sans suer, carrément. Ça n'a pas besoin de beaucoup de puissance. Sur une version, il y a deux ports USB. Sur l'autre, il y en a un. Sur la version développeur, entre guillemets, il y a un port réseau. Il y a un port de lecture de carte SD. Vous branchez ça dans le mur avec un adaptateur micro USB. Il y a une sortie HDMI. Il y a une sortie vidéo, le fil jaune classique.
RCA.
Ouais, RCA. Et il y a une sortie stéréo. Fait que tu peux brancher un fil stéréo qui donne les deux fils RCA pour avoir le vieux.
Ouais.
Puis en gros, l'ordi, c'est ça. À 35$.
Ah, c'est fou, là.
Et il y a déjà des projets qui roulent des Linux complets dessus. Déjà là, c'est relativement utilisable.
Ouais.
Un petit système pour monsieur et madame tout le monde, tu sais. Un système pour les invités.
Mm.
T'arrives, tu bloques ça. Hey, ouais. T'as un ordi. Ou bien, l'utilisation que je veux en faire personnellement, qui va être vraiment balèze, c'est carrément, je vais la brancher à côté de ma télé HD. Vu que j'ai commandé l'édition développeur, je vais avoir ma prise réseau.
Comme Media Center.
C'est ça, je vais l'utiliser comme décodeur parce qu'il roule déjà XBMC dessus. Qui décode du 1080p sans choquer par le réseau.
Ah, c'est bon.
35$, terminal d'accès, boum, j'adore. Ce concept-là est génial.
C'est une belle framboise qui goûte l'orange.
Et voilà.
J'aime bien cette série d'appareils-là parce qu'il y a quelques années, j'avais beaucoup travaillé avec les Gumsticks, qui est la même chose, d'un autre manufacturier. Puis c'est vraiment le fun d'avoir des petites machines qui font zéro bruit parce que c'est
ça.
C'est complètement du
solid state.
C'est ça, c'est pas diesel. Puis c'est tout petit, puis c'est très flexible pour faire plein de choses.
Faut savoir se débrouiller pour utiliser la chose, puis faire j'ai pas le terme français, désolé, office de langue française, le setup.
Mm.
Mais c'est quand même extrêmement décent.
Ouais, c'est ça.
Et bon, mon citron de cette semaine va à Apple.
Encore?
Désolé. Je m'excuse, Alex.
J'avais l'impression qu'Alexandra l'attendait, puis « Oh là, c'est encore Apple, je le tue!
» C'est pas ma faute, il me donne tellement de matériel. Excusez.
C'est correct, t'as chiolé contre ton enfant chéri tantôt, fait que vas-y.
Et voilà, ça équilibre. Pour son presque iPad 3, puis honnêtement, j'ai cette annonce-là me déplaît totalement. Apple, je vais être honnête, à chaque fois qu'ils annoncent quelque chose, d'habitude, c'est une évolution bien décente ou une révolution au niveau marketing, au niveau intégration. Bon, avec tout le flafla, d'habitude, il y a quand même du matériel.
Ouais.
Avec la grosse annonce pour le nouveau iPad...
Tu veux dire, à l'exception de l'écran qui change complètement la façon dont...
Ça change même pas la donne parce que techniquement... Oui. Attends, mais minute. Il disait Retina Display, c'est 320 points par pouce minimum. Puis là, il change le calcul avec une équation savante cool. Gars, il change le calcul. Retina Display, c'est eux qui décident. Fait que déjà là...
OK, attends. Le calcul à part, là...
Ouais.
On se cachera pas que le nouveau iPad a une très haute résolution.
Auquel cas, je te réponds que la Transformer Infinity va avoir 1080p.
C'est pas de ça qu'on parle. Ce qu'on parle, c'est l'ancien appareil avait une résolution de merde.
X.
Le nouveau a une résolution excellente. C'est
une précision
très belle
excellente.
Amélioration.
Oui, sauf que faire une méga grosse annonce de la mort qui tue.
Quoi, toi,
que
tu ne ferais pas une grosse annonce si tu annonçais un nouveau produit de ta compagnie?
Attends un petit peu. Laisse-moi non. Fenêtre. On n'est pas dans un débat, on est dans un citron.
Hey, il y a de la place dans ce citron-là.
Et ouais. Faire une grosse annonce de la mort qui tue à la Apple pour annoncer un nouvel écran, et pas beaucoup de mises à jour sur, le, sur les composantes internes.
Ce que je dois dire, Laurent, ils ont employé le mot révolutionnaire quand même. Là.
C'est ça. Tu sais, il dit.
Il
utilise le gros label Apple pour un meilleur écran. Ok, fine.
Mais c'est j'ai correct. L'impression aussi que.
Je peux-tu finir?
Non, non. Vas-y.
un nouvel écran mieux défini. Ok, correct. Mais ça, c'est. Amener la technologie qui est faite maintenant dans les produits. Fait que déjà là, c'est juste une actualisation. Processeur double cœur, sous-cadencé à la Apple, parce que d'habitude, il sous-cadence pour maximiser le temps de vie. Le A5X, qui est une optimisation, pas un nouveau processeur. Il est juste un petit peu mieux conçu, moins de consommation. Probablement à peu près les mêmes fréquences, double cœur quand même, pas de mise à jour. La puce vidéo, ils disent quadricœur, de puce vidéo quadricœur. Ma Transformer Prime, ok, on veut aller nombre de cœurs, ma Transformer Prime elle a 12 cœurs de GPU. C'est un chiffre. Ils gardent le prix au même prix, 520 pour le 16 gigs? Ou à peu près?
À peu près, ouais.
Des compétiteurs ont 32 gigas moins cher. Je m'excuse, mais toute la grosse annonce, le poids de Apple pour une mise à jour que d'habitude, je m'excuse de faire la référence, les produits Android, ils font leur mise à jour de moitié d'année, puis ils font pas une annonce grosse de même. Ça a le même poids technologique qu'une mise à jour... pour une annonce de mi-année pour les nouveaux téléphones Android. Je m'excuse, mais mon citron va au iPad 2.5.
Il goûte sûr, ton citron.
Il est très sûr.
Mais ce que je voulais juste...
C'est quasiment comme si t'étais obligé d'en acheter puis que t'aimais pas ça.
C'est ça!
Mais achète-en pas d'iPad.
Il y en a qui vont le faire. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau iPad.
Mais regarde, moi j'attends
un iPad. J'aime l'autre, tu sais.
Moi j'ai un iPad 1. Le jour où je voudrais changer de tablette, c'est sûr que j'irai vers iPad. Pourquoi?
Mais c'est parce
que toutes mes applications que j'ai achetées, j'ai pas envie de leur.
Je dis pas ça. Je dis que tu vas voir. Je m'excuse, tu vas voir un utilisateur un petit peu. Un petit peu convaincu qui va y aller. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Même s'il vient d'acheter un iPad 2.
Ouais. Ça, il y en aura toujours.
J'aime pas ça. C'est un petit peu abusé. Anyway, c'était mon citron.
C'était un panier de citron.
Le citronnier au complet. Ce soir.
Je t'ai passé le champ.
Qu'as-tu pour nous? Comment ranger citron?
Alors, cette semaine, mon
malheureusement, orange... Malheureusement, on n'a pas le temps.
Donc, mon orange, c'est pour mon nouveau fournisseur Internet Electronic Box que j'ai pris un risque en personnel parce que aucune idée de la réputation, le site web semblait très ordinaire, personne connaissait, pas vraiment capable de savoir si c'était un service fiable ou pas. Je dois dire, ça fait un mois que je suis avec eux, c'est excellent, je suis très content, c'est pas cher, j'ai beaucoup de bandes passantes, plus que de la compétition presque. C'est un excellent choix, je suis vraiment très surpris et très content que les fournisseurs indépendants soient encore capables présentement de se faire une place dans le marché et de permettre aux Canadiens, ou enfin aux Québécois, d'avoir un accès Internet raisonnable.
Est-ce que c'est du DSL ou du câble?
C'est du câble, celui-là. Okay. Ben, ils font les deux, mais j'ai acheté, je me suis abonné au câble.
Donc, tu es limité en
250 gigas par mois.
C'est très bon. Je suis sûr que depuis que tu en as parlé au dernier podcast, ça a probablement attiré beaucoup de monde. Ouais, mais ça venait juste de sortir quand tu en as parlé.
Quand j'en avais parlé, c'était parce que la compagnie venait d'annoncer les nouveaux forfaits suite aux décisions du CRTC, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de clients qui font des changements de forfait ou des changements de fournisseur parce que ces nouveaux tarifs-là sont très intéressants.
Mais quelle option, là, tu sais?
C'est ça, cool, puis s'il y a des gens qui l'auraient pas entendu, c'était quoi à peu près le prix?
C'est 45$ pour le 15 MB de câble avec 250 GB par mois.
Illimité la nuit.
Non, pas
c'est, pas lui. C'est pas lui. C'est pas ça.
Non, c'est 250.
Okay. C'est vraiment 250.
Quand même.
Oui, c'est très bon. 250.
Je pense quand même qu'ils ont des offres illimitées, mais je suis pas sûr.
Peut-être en DSL.
C'est possible. Je connais
parce
pas.
Parce que moi, j'ai Akanak en DSL, c'est illimité, vraiment illimité.
Texte à vie, par contre, ont décidé d'offrir du illimité câble.
Ah oui.
Mais pas la nuit, illimité.
Ah bon.
Oui. C'est leur approche, mais eux sont un petit peu plus chers. C'est leur différenciation.
Ouais. C'est ça. Mais sûrement, mais tu sais. Pour que tu dépasses 250 gigs mensuellement. Là.
Facile.
C'est beaucoup.
Et ton citron?
Mon citron. C'est pour la petite liseuse mini tablette Kobovox que je suis présentement en train d'essayer. C'est une très bonne liseuse pour lire des livres, je l'admets, ça va bien, l'écran beau, tout ça. Mais la configuration initiale, c'est extrêmement décourageant et ça donne le goût de le remettre dans la boîte et de le ramener au magasin. Parce que sans la connexion Wi-Fi, c'est impossible à l'utiliser. On ne peut même pas aller lire son premier livre tant qu'on n'a pas suivi le guide, okay. Branché le Wi-Fi, télécharger une tonne de mises à jour, redémarrer l'appareil 3 ou 4 fois, charger pendant 6 heures. C'est extrêmement lourd et désagréable. Ça ne m'a pris 2 jours avant d'être capable de me rendre à l'écran d'accueil du Kobo pour voir qu'il n'y a aucun livre qui vient avec.
Non, en plus.
Donc, pour les designers...
Mais une fois que tout ça c'est fait... Il est utilisable.
Oui, oui, puis c'est... Puis là, je commence à
l'utiliser.
Oui, ben, à date, ça me semble une belle petite tablette, c'est intéressant, c'est application Android.
C'est canadien.
Android
c'est
2, ça. Là, mais il y a quelque chose à faire avec cette tablette-là. Mais l'expérience de l'acheter puis de commencer à l'utiliser, c'est
très agréable.
Est-ce que tu as joué avec le Kindle un peu pour comparer ou non?
Non, j'ai pas de Kindle. Mais par contre, j'ai pu comparer avec un Sony e-reader. C'est pas la même catégorie. C'est ceux avec la version encre électronique que j'aime vraiment beaucoup. Là, c'est très beau. Mais la tablette avec un écran LCD aussi, là, c'est très brillant. Mais bon, c'est pas la même catégorie. C'est le même format, par exemple. Mais la Kobo est tellement lourde. C'est incroyable. Mm. C'est comme transporter une brique. Je la tiendrai pas dans les airs, je la tiendrai à côté.
Moi, c'est supposé être quelque chose de portable.
Alors qu'un livre comme le Kindle, ben, les Kindle noir et blanc ou les Sony e-reader et les autres qui ont de l'encre électronique sont extrêmement légers.
Ah oui.
C'est comme tenir une petite feuille de carton dans les mains. C'est vraiment pas difficile, tandis que cette mini tablette-là, c'est aussi lourd qu'un gros iPad. Donc,
c'est pas la même catégorie d'appareil, ça contient non, pas les, ça. Les mêmes entrailles non plus. Là. C'est vraiment c'est pas ça. Le même.
Ouais, donc un petit citron là-dessus, mais maintenant maintenant qu'elle marche, on va l'essayer.
Merci Laurent. Eh bien moi, je vais terminer ça en beauté avec 2 oranges.
Oh,
oui.
Oh boy.
Allons-y avec la première. Eh bien la première, c'est Apps Gone Free, qui se trouve à être une application sur iPhone. Et ce que c'est en fait, c'est que c'est une application qui nous donne les informations d'applications qui deviennent gratuites à chaque jour. Il y en a d'autres que j'avais déjà essayé comme App Advice qui nous donne des avis sur soit des baisses de prix ou des applications qui sont devenues gratuites. Sauf que celui-là, il y a vraiment une différence parce que c'est des applications qui valent la peine, qui sont bonnes, que c'est des applications souvent que ils sont à 4,99 en temps normal ou à 6,99. Par exemple, Snapseed qui se trouve à être une application de base de iPhone, qui est une application de photo, qui était à 6,99 en temps normal, qui était tombée gratuit. Donc, les informations et les applications qu'ils nous offrent à chaque jour, c'est toujours des applications qui valent la peine d'être essayées.
C'est varié aussi.
C'est varié. Ça touche les photos, ça touche les jeux, ça touche les
la gestion.
Vidéos, la gestion, la finance, ça touche tout. Et c'est des bonnes applications. C'est pas jouer au bonhomme pendu avec...
Ouais, il y avait Free App a Day, mon ami, que j'avais essayé, qu'ils te balancent vraiment la première affaire qu'ils ont trouvée sur iTunes quand ils ont fait Free Category.
Ah, mais là,
c'est n'importe quoi.
Là, c'est vraiment des applications qui ont un bon rating aussi. C'est quasiment tout du 3 étoiles et demi et plus. Puis,
tu peux voir le nombre de votes qu'il y a eu. Tu sais, c'est peut-être, c'est un 4 étoiles, mais c'est sur 120 personnes qui l'ont évalué, ou tu peux avoir sur 2000 personnes qui l'ont évalué, ou ainsi de suite. Donc, tu peux voir que ok ouais, ça vaut peut-être la peine, mais souvent ça vaut vraiment la peine.
Depuis que je connais l'application.
Tu peux répéter le nom de...
C'est Apps Gone Free. Okay. Tout collé.
Depuis que je connais l'application, je suis en train de remplir l'iPhone de Lynn avec
l'application. Chaque jour, ils nous en offrent à peu près 3 ou 4.
Non, des fois, il y en avait 7.
Oui, c'est ça. Des fois, c'est plus. Et souvent, sur ceux-là, il y en a 2-3 que je finis par regarder. Je suis en train d'ailleurs de remplir mon iPhone à chaque fois. Alors ça, c'était mon premier orange. Et ma deuxième, ça se trouve à être le nouveau réseau social Pinterest.
Ah ouais, hein?
Je suis fan. Fini! Ouais. C'est terminé. J'adore ça.
Pinterest est un réseau social fait carrément pour les femmes.
Oui.
C'est pas le premier à dire. Il y a d'autres monde qui disent ça.
Mais c'est fait pour les femmes, mais je trouve que... D'un sens, c'est fait autant pour les hommes qui ont le goût d'afficher leur goût. Parce que je trouve que ce que j'aime vraiment, c'est que c'est une espèce de tableau.
Un babillard.
Que je mets les photos de ce que j'aime. Et quand je regarde mon babillard, ben, ça me représente à 100 000.
Un Twitter à images.
C'est un Twitter à images que t'as même pas besoin. C'est beau, ça. C'est beau. On pourrait changer ça. Mais je trouve que, vraiment, mon Pinterest, quand je regarde mon babillard, c'est totalement moi. Puis je crois que tout le monde peut le faire aussi. Puis je pense qu'il y a vraiment de l'avenir pour cette application-là. Et d'ailleurs, je pense que le dernier mot aux États-Unis, Pinterest a dépassé Twitter en fait de...
Ça marche encore juste par invitation. Hein?
Oui, oui, juste par invitation encore. Donc, quand ça va être assez gros, quand ils vont l'ouvrir à tout le monde, je pense que ça va faire un gros boom parce que c'est intéressant de pouvoir partager et c'est facile de partager. C'est une application qui est super facile pour tout le monde.
Oui, leurs serveurs vont fondre.
Peut-être, mais ils vont sûrement l'ajuster. Je sais
que
ça roule. Ben,
tant que c'est à invitation, ils sont capables de contrôler.
C'est ça.
Justement, quand ils ouvrent.
Ah, mais c'est ça. Peut-être que ça va planter, mais je pense qu'ils ont quelque chose d'assez fort pour essayer de remonter, puis ils vont avoir du monde qui va
les backer. C'est juste de l'image. C'est pas vraiment du vidéo ou quoi que ce soit. Fait que, les entrées-sorties, ça va rouler.
Mais tu peux mettre des vidéos, par contre.
Sur Pinterest,
oui, parce que je l'ai essayé justement avec. Web et Mascara, la petite sœur de Geekbécois. Puis j'ai mis justement un clip que j'ai mis d'Inès Talby que j'ai mis et ça fonctionne. J'étais pas sûre, puis ça fonctionne. Donc les vidéos aussi peuvent être supportées, mais là à quel point ils vont être capables d'en supporter à grandeur du monde.
Ben, la vidéo était peut-être simplement sur YouTube. Puis
ouais, c'est ça. Ça fait juste un
pour eux, ça représente rien.
Tant qu'à ça.
Ça fait juste rediriger.
Ça fait un peu un équivalent de Tumblr.
Oui.
Mais je trouve que c'est plus agréable à utiliser.
Oui, c'est plus beau.
Parce que Tumblr, j'ai jamais été vraiment attirée par ça. Ouais, rebloguer, ensuite commentaire. Tu sais pas trop qui et quoi. C'est vraiment pas pratique à utiliser.
Tu sais, il y a une photo, tu as le choix de le liker ou de le. Ils disent
repin. Repin.
Penetrant. C'est une drôle, on va trouver un autre verbe en français, j'espère.
Épingler.
Le réépingler sur son mur. Puis à ce moment-là, on le partage à nos amis puis à nos followers. À nos followers, bref. Donc, je pense que ça fait vite le tour. T'sais, j'ai eu des gens qui ont repiné, en tout cas. Réépingler ma photo plusieurs fois déjà. Puis encore là, j'ai peut-être 17 followers présentement. Donc, je pense que ça peut devenir assez gros. Ça va être intéressant à voir. Et même pour les sites Internet, sûrement qu'il y a beaucoup de sites Internet qui vont commencer à le faire aussi. Geekbécois, je crois qu'on va commencer...
Moi, j'ai squatté le nom.
C'est ça, pour l'avoir.
Moi, j'ai squatté le nom, mais...
Mais sur les articles, tu peux mettre un petit pin it. En dessous, comme le Facebook, Twitter, et nous, on l'a ajouté sur webmascara.ca.
Et on a aussi notre Pinterest, justement, de webmascara, que les gens qui sont sur Pinterest peuvent nous suivre aussi.
C'est pas gêné de faire des plugs comme ça.
Non, pas du tout. Alors, c'était mes deux oranges. Go Pinterest, go.
Moi, je les aime, tes deux oranges.
Ah, bon.
Pas du tout.
Non, comme j'ai dit tantôt, 13 ans et plus.
Finis ça. Allons-y avec la conclusion. On va finir ça. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté le podcast mensuel de Geekbécois. Et je vais dire un beau au revoir à tous mes invités parce que oui, ils sont chez nous. Donc, merci beaucoup à Renaud.
Salut.
Merci Alex.
Merci à toi.
Merci Steve.
Yo, là, bon.
Merci Jean-François. Merci Laurent.
Merci de nous avoir
reçus. Et merci Coy.
Que Dieu vous bénisse.
Une bénédiction de Coy, quoi de mieux pour terminer un bon spectacle. Merci beaucoup.
Pour tout commentaire, question ou suggestion concernant l'émission ou pour communiquer avec l'équipe de Geekbécois, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre page Facebook ou sur Twitter à En commercial Geekbécois ou sur le site internet au www.geekbécois.com.
Pis t'as vraiment un gros accent là.
Ah, oh, un gros accent.
Gros accent.
Hé, hey, pardon monsieur, vous avez un gros accent. Vous avez...
Mais
c'est gros cool, votre accent.
Mais qu'est-ce que tu veux, c'est
ouais. Ça fait 2 heures qu'on déconne.
Ok.
Quasiment.
Go.
Go quoi? Qu'est-ce que tu veux, man?
Ok, t'es-tu prêt?
Attends, non. Bonjour et bienvenue au podcast mensuel de Geekbécois. Nous sommes présentement chez nous, et oui, et
C'est drôle, chez nous. Allons-nous ça chez nous. Ouais, ben c'est ça. Prout, moi, chier mon ramad.
Bonjour et bienvenue au podcast mensuel de Geekbécois. On est ce soir avec une bonne partie de l'équipe de Geekbécois. Et je vous les présente à l'instant. Renaud.
Bonsoir.
Alex.
Bonsoir.
Bonjour.
Bon matin. Bonsoir. On a dit que c'était bon matin.
Je m'excuse. Tu sais, la directive a été trop claire. Et là, on dit pas bonsoir, on dit bonjour, au revoir! On dit bonjour!
Excusez-moi! Non, mais le pire, c'est Alex avec genre bonsoir!
Attends, ah, bonsoir! Puisqu'ils le font, bonsoir!
Bonjour et bienvenue au podcast mensuel de Geekbécois. Je suis ce soir avec.
Ce soir, mais on va dire bonjour.
Ok.
Ok, là c'est
bien. Aïe aïe. Bonjour.
Juste. Non.
Oh, c'est pas mal. Oh, ça va.
Hit it.
Mais d'habitude, après une dizaine de takes, on
est. Je l'ai, c'est bonjour et bienvenue au podcast mensuel des Geekbécois. Je suis ce soir.
Bonjour, je suis ce soir. Je sais plus quoi dire. Bonne après-midi. Bonne matinée.
Et ça, c'était con, là. Okay,
ouais, on va mettre un soleil dans la fenêtre.
Oh, je le sais, c'est parce qu'il faut reculer l'heure.
Ah,
faut avancer.
Hey, là, je me suis forché. Je me suis forché, mais j'ai essayé.
Les c'était quoi les colombes?
Hein? Une colombe est partie en voyage.
Ok, go. Non. Okay. Alors, on y va avec Renaud. Renaud va partir.
Bon, ben, salut. Renaud va partir. Bonsoir, on va faire le fun.
On va y aller avec Renaud. Bye.
Alors, j'aime les fraises.
What is love? Baby, don't hurt me.
Okay. Don't hurt me. No more. Vous changez de parler de moi avec... Je m'en allais parler comme ça.
Hey, mon ami,
ouais. Hey, c'est normal, les coquelles dans le placard.
Oh, viens ici, monsieur, je vais te parler, man. Shit. Oh, Haïti. Ben c'est mon pays, man.
Ouais. Lui me racontait...
Jésus. Quand la Saint-Jean-Baptiste, à 5h du matin, il y a la poissie qui faisait vroom vroom. Ah oui.
Je suis en train de faire un test de micro.
Oh,
à date, vous coulez tout.
Ouais, ben c'est ça. Prout, moi, chier mon ramad.